Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Le coup d'envoi de Soir Info, vous en avez l'habitude, de 22h à minuit pour bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Info. On se retrouve comme chaque soir pour discuter, débattre de tous les sujets d'actualité et à la une. Notamment ce soir, faut-il redouter une nouvelle vague épidémique de Covid? Les chiffres de contamination remontent à la hausse, tout comme les admissions en soins critiques. A priori, pas de mesures contraignantes à la clé, du moins pour le moment. On va faire le point dans quelques instants. On verra aussi ce qui se passe en Chine. En Chine, où la population laisse exploser littéralement sa colère après des mois et des mois de confinement en raison de la fameuse stratégie zéro Covid. La violence aveugle chez les très jeunes adolescents. Un garçon de 14 ans a été tué à coups de marteau à Coignières, c'est dans les Yvelines, lors d'une rixe entre bandes rivales par un autre jeune âgé de seulement 16 ans. La violence qui monte dans notre société est-elle réversible? De quoi est-elle le symptôme? On en débattra. Et puis on évoquera les violences qui se sont déroulées hier à Bruxelles également, à l'issue d'un match entre le Maroc et la Belgique lors de la Coupe du Monde, remporté par le Maroc. Quelle que soit l'issue du match, le football est-il désormais synonyme de violence? On se posera la question avec Tatiana Renard-Barzac notamment ce soir. Bonsoir chère Tatiana.
Bonjour.
Ravi de vous accueillir. Ravi d'accueillir évidemment comme tous les soirs Alexandre Devecchio qui a mis sa plus belle cravate.
Bonsoir.
Bonsoir cher Alexandre. Je ne parle pas du chapeau, on verra ça plus tard. Jean-Sébastien Ferjou est parmi nous. Bonsoir Jean-Sébastien, directeur de la publication Atlantique. J'oublie évidemment de préciser qu'Alexandre est rédacteur en chef au Figaro. Karima Bric de la rédaction de CNews. Bonsoir cher Karima. Le meilleur pour la fin. Yoann Uzaï du service politique de CNews. Bonsoir à tous les cinq. On va se retrouver dans un instant pour entamer nos discussions, mais d'abord à 22h01, il est l'heure de retrouver Isabelle Piboulot pour l'actualité. Bienvenue sur CNews.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Dernier round de discussion autour de la réforme des retraites. Invité sur RTL, le secrétaire général de la CFDT est revenu sur les négociations et notamment sur la question du report de l'âge de départ à la retraite. Et sur ce point, Laurent Berger met en garde le gouvernement.
Je crois qu'il y a une incandescence extrêmement forte aujourd'hui dans notre pays. Beaucoup de difficultés sociales et beaucoup d'inquiétudes. Est-ce que le gouvernement a vraiment envie de mettre le feu au pays et est-ce qu'il a envie de faire une réforme qui est profondément injuste pour les travailleurs les plus modestes? Là, si la réponse est oui, la CFDT se mobilisera.
En déplacement à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, Gérald Darmanin a assuré vouloir renouer le dialogue avec les indépendantistes afin de trouver un chemin pour l'avenir dans la République française. Le ministre de l'Intérieur souhaite discuter du transfert de nouvelles compétences à la Nouvelle-Calédonie. Je vous propose de l'écouter.
Il faut construire ce chemin nouveau. Sans doute ne déteste pas tout à fait les institutions qui gouvernaient la Nouvelle-Calédonie jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, un choix a été fait de rester dans la République française et donc à l'État français de pouvoir tendre la main à tous ceux qui n'ont pas forcément choisi ce chemin-là pour pouvoir travailler ensemble et pour que chacun se sente profondément respecté sur sa terre.
Le calendrier de la billetterie des JO 2024 dévoilé dès jeudi et jusqu'au 31 janvier. Vous pourrez vous inscrire en ligne pour participer à un tirage au sort. Un mail avertira les heureux élus d'un créneau de vente de packs allant de 72 à 1150 euros. Si vous n'avez pas été sélectionné, une deuxième phase de vente à l'unité, cette fois, débutera au mois de mai. On écoute Tony Estanguet, le président du comité de Paris 2024.
La bonne nouvelle, c'est que la billetterie, elle ouvre. Ça y est, c'est parti. C'est concret. À partir du 1er décembre, la billetterie de Paris 2024 va ouvrir. Vous allez pouvoir constituer votre programme idéal, acheté à partir de 3 billets, donc c'est jusqu'à 30 billets par personne. C'est un moment absolument exceptionnel avec un choix incroyable d'épreuves, encore une fois, tous les sports dès cette première phase avec 80% des sessions.
Enfin, aux États-Unis, près de Washington DC, un petit avion s'est coincé sur des lignes électriques à haute tension dans le Maryland. Le pilote et son passager ont passé près de 7 heures suspendus à 30 mètres du sol avant d'être secourus. L'accident a causé plusieurs pannes de courant dans les alentours, notamment dans deux hôpitaux.
Merci beaucoup Isabelle Piboulot. On vous retrouvera dans quelques instants pour un nouveau JT. Moi, je vais me ruer hein, sur les billets Paris 2024. Je ne sais pas vous, mais au premier jour, c'est quand? C'est le 1er décembre. Hein. Ah, je vais me mettre sur la liste d'attente tout de suite. Personne mm-hmm. Non? Oui mm-hmm. Jean-Sébastien?
Me ruer sur la liste d'attente, je ne suis pas sûr.
Non. Attendez, c'est arrivé une fois dans une vie de vivre des JO de l'intérieur, Jean-Sébastien. Non
oui, mais j'y suis déjà allé, figurez-vous, c'est dur, mais pas en France.
C'est dur de se projeter dans un an et demi aussi. Enfin, c'est...
Ouais, je suis d'accord.
Hein? Arrêtez. Oh, qu'est-ce qu'il est rabat-joie.
Mais on sera où dans un an et demi?
Ben, on sera justement au Stade de France pour la finale du 100 mètres. Et allez. On se tiendra la main et on vibrera allez, ensemble, Johan. Merci. Allons-y. On marque une pause et on part pour la Chine pour notre premier sujet. La stratégie zéro Covid est-elle en train de montrer ses limites? Des manifestations de plus en plus importantes dans l'Empire du Milieu. On y vient dans un instant. De retour sur le plateau Soir Info pour notre premier thème du soir, toujours avec Yohann Uzay, Alexandre Devecchio, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abric, Tatiana Renard-Barzac, direction la Chine, donc où la population laisse littéralement exploser sa colère après des mois de confinement en raison de la stratégie zéro Covid, manifestation relativement inédite dans ce pays où, vous le savez évidemment, les autorités sont particulièrement présentes et tentent désormais de juguler ce mouvement. Plus d'explications avec Clémence Barbier, on en discute.
En Chine, la colère des citoyens explose.
Nous ne voulons pas être enfermés, nous voulons la liberté.
Feuille à la main, ces Pékinois protestent contre la politique draconienne zéro Covid imposée par le gouvernement depuis 3 ans.
Je ne pensais pas que tant de personnes viendraient. Ces dernières années, notre liberté d'expression et les différentes façons de nous exprimer ont été bloquées.
Je pense que le peuple chinois qui lutte pour la liberté a encore un long chemin à parcourir.
Confinement à répétition, test Covid obligatoire, le mécontentement des Chinois prend de l'ampleur depuis ce week-end, partout dans le pays. À Shanghai, ces rassemblements inédits sont surveillés de près par la police, qui bloque les rues et procède parfois à des arrestations musclées. Sur cette vidéo, un journaliste de la BBC qui couvrait l'événement est arrêté. Il sera libéré quelques heures plus tard. Selon Pékin, il ne s'était pas identifié en tant que journaliste. 2 autres personnes ont été arrêtées à Shanghai cette nuit. Au lendemain de ces heurts, des barricades ont été installées dans la ville. Et le gouvernement chinois assure que son combat contre la Covid-19 sera une réussite.
Jean-Sébastien Ferjou, très impressionnant hein, ces images venues de Chine, une flambée de colère qui est relativement sans précédent. Évidemment, on pense à Tiananmen, ça nous ramène quasiment 40 ans en arrière. Sans précédent contre la politique Covid-0. Cette fois-ci, les Chinois qui sont pourtant habitués à vivre, je le disais, sous le joug d'un gouvernement totalitaire et qui ont subi peut-être le tour de vis de trop.
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs événements déclencheurs, notamment l'incendie dans un immeuble dans lequel les gens étaient retenus prisonniers, puisqu'on le voit dans un certain nombre de villes, les autorités ferment bloquent vraiment les portes afin d'empêcher les gens. Et s'ils n'ont pas de provisions, bah, tant pis pour eux. Il y a des gens qui en sont même venus à se jeter par les fenêtres tellement ils étaient désespérés. Donc oui, c'est quelque chose d'une sévérité qu'on n'a absolument pas connue en Occident. Et la raison pour laquelle les Chinois en sont là, c'est très largement parce qu'ils n'ont pas vacciné leur population, et notamment leur population âgée. Et on sait que les plus âgés sont bien souvent les plus vulnérables aux formes graves du Covid. Ils ont pris énormément de retard sur ce terrain de la vaccination. Et après, il y a ce qui est propre à l'organisation politique du pouvoir chinois, avec notamment beaucoup de pouvoir qui a été donné aux comités locaux. Et ce n'est pas forcément le pouvoir central qui voulait des mesures aussi restrictives que celle-là.
Non, mais bon,
le voulait sur la
c'est la personne de Xi Jinping, le président chinois, qui cristallise quand même la colère
ça fonctionne,
des Chinois.
C'est-à-dire que personne ne va vous sanctionner si vous êtes trop sévère. En revanche, beaucoup de responsables politiques locaux ont été sanctionnés parce qu'ils n'avaient pas su contrôler le développement de l'épidémie. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et voilà, c'est aussi ce qui se passe dans les systèmes où il n'y a aucune transparence ni aucune liberté politique.
Et je rappelle à nos téléspectateurs, la stratégie zéro Covid, elle est très simple. Hein. Dès le premier cas, vous enfermez tout le monde dans un quartier, dans une ville. Parfois, pour un cas, vous avez des millions de gens qui se retrouvent confinés. Et c'est en cela qu'on peut se demander si cette stratégie zéro Covid, elle n'est pas en train de montrer ses limites. Karim Abric, ce sont principalement des jeunes, des classes moyennes qui sont touchées économiquement, qui se disent « on ne va pas s'en sortir ».
Oui, tout à fait. Et en fait, ça touche tout le monde. Ça touche aussi toutes les classes de la population parce que vous l'avez dit, d'un côté, oui, il y a l'aspect économique. Il y a des gens qui veulent gagner leur vie, mais il y a l'aspect aussi la jeunesse et les gens en général qui veulent une certaine liberté de se mouvoir. Et je pense qu'il ne faut pas éclipser toute la notion de ce régime totalitaire. C'est littéralement ça qui est en jeu. Et on assiste véritablement, je dirais, à une dystopie Les Chinois vivent un véritable cauchemar éveillé. Ça fait plus de 3 ans qu'ils sont dans une pression psychologique immense qu'on peut même pas imaginer.
Écoutez, on parle pas des expatriés également qui sont littéralement prisonniers de la
situation
aussi. Ouais.
Et combiner cet aspect donc de confinement, combiner aussi, j'allais dire, l'aspect totalitaire du régime et la technologie aujourd'hui, ça fait un cocktail explosif en termes de contrôle social. Parce que maintenant avec la reconnaissance faciale, tout ça, il y a ce contrôle social qui est poussé à l'extrême et on assiste à ça pendant une crise. On peut justement déployer tous les moyens nécessaires, tous les moyens que le régime juge nécessaires pour contrôler les gens. Et ça donne des scènes absolument horribles depuis 3 ans.
C'est une cocotte minute. Est-ce qu'elle est prête à exploser ou non? On va se poser encore la question. Je voudrais juste que vous entendiez le professeur Cohen, l'immunologue israélien, qui était sur le plateau de Pascal Praud. C'est très intéressant de l'entendre et on l'entendra tout à l'heure dans la deuxième partie quand on s'intéressera aussi à cette 9e vague qui couve en France. Pascal, ce matin, Pascal Praud qui lui a posé la question de l'efficacité ou non des confinements. Écoutez sa réponse.
La stratégie zéro Covid, c'est zéro. Voilà, c'est tout. Je veux dire, c'est zéro dans le sens où ça ne marchera pas. On l'a vu en Australie, en Nouvelle-Zélande, où ils ont décidé de laisser tomber. On a vu à Hong Kong. Et ce que je pense qu'en Chine, ils doivent avoir peur de ce qui s'est passé à Hong Kong il y a à peu près un an. Parce qu'en fait, ils ont réalisé, ou un peu moins à peu près, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contenir un virus comme l'Omicron et qu'à un moment ou à un autre, ce qui s'est passé, c'est que leurs hôpitaux ont été surchargés avec 300 et 400 morts par jour. Donc en fait, ce que la Chine fait aujourd'hui, c'est elle a peut-être un délai, mais on ne pourra pas stopper la Covid, à moins vraiment que, je ne sais pas moi, ils ferment toutes leurs frontières.
L'impression, c'est que Xi Jinping, le président chinois, a fait cette stratégie zéro Covid, Yohan, une affaire personnelle en fait, quasiment, c'est un choix politique. Il est incapable, le pouvoir chinois est incapable aujourd'hui de reconnaître que ça ne fonctionne pas. Tout simplement.
Changer de stratégie, ça paraît hautement improbable pour le président chinois parce que, comme vous l'avez dit, il en a fait une affaire personnelle. C'est sa crédibilité, l'assise de son pouvoir aussi, quelque part, qu'il a est en question. Tout ça m'inspire plusieurs choses. D'abord, la Chine est une dictature. Non, mais il y a des évidences qui sont bonnes à rappeler, mais je vous rappelle quand même que pendant les confinements en France, on entendait certaines personnes dire que la France était aussi une dictature.
Pardon, Yohan, le modèle chinois, dans un premier temps, il nous a inspirés. Nous nous en sommes départis. Tout le monde, d'ailleurs, en est sorti ou presque, sauf le pouvoir chinois, mais on s'en est inspiré dans un premier temps.
Il a inspiré le monde entier.
Oui.
Tous les pays du monde ont fait au moins un confinement.
Voilà.
Mais ça n'est pas pour autant que nous sommes une dictature, voyez-vous. On peut voir que la différence aujourd'hui est flagrante.
Donc,
non, mais c'est une évidence qui est bonne à rappeler.
Oui,
deuxième chose, si la Chine en est là, c'est parce que d'abord elle n'a pas vacciné suffisamment, mais parce que ceux qui sont vaccinés sont entre guillemets mal vaccinés. Parce que je vous rappelle que le vaccin chinois est quand même plutôt inefficace. Beaucoup moins efficace en tout cas que ceux que nous avons utilisés. La Chine a commencé à vacciner en décembre 2020. Qu'a-t-on entendu en France, notamment quand la Chine a commencé à vacciner? Des critiques contre le gouvernement. Pourquoi n'achète-t-on pas de doses en Chine? Regardez, les Chinois vont beaucoup plus vite que nous, etc.
Les gens réclamaient des doses de vaccins chinois.
Mais on se comparait, en tout cas, en disant ils vont plus vite que nous.
Je vous assure qu'en décembre 2020, on se comparait avec la Chine.
Ouais, ouais.
Eh bien, en voyant cela, je suis heureux, moi, que la France n'ait pas eu recours, n'ait pas cédé à la pression d'une partie, certes infime, de la population, mais en tout cas aussi de la classe politique. Je suis heureux que le gouvernement n'ait pas cédé et n'ait pas importé des doses de vaccins qui se révèlent donc assez inefficaces.
Je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire, évidemment, mais c'est presque réjouissant de voir les Chinois manifester leur colère parce qu'on croyait, évidemment, dans notre inconscient depuis Paris, à des milliers de kilomètres, cette Chine, ce peuple chinois est entièrement soumis au Parti communiste et cette séquence peut nous rassurer aussi. La censure est telle en Chine que la population commence à se lever. Jusqu'où ça peut aller, ça?
Ouais, la symbolique de cette feuille blanche
oui.
Est tout à fait parlante, évidemment, sur ce que vivent les Chinois, sur ce qu'ils ne peuvent pas dire, ce qu'ils aimeraient dire, sur ce qu'ils vivent depuis toujours, parce que la politique de l'enfant unique, quand même, est aussi passée par là. Ils ont quand même aussi beaucoup accepté et subi des choses. Par ailleurs, c'est vrai que cette façon d'enfermer les gens, Jean-Sébastien le disait, arriver à mettre des verrous extérieurs sur les portes, faire des trous dans les portes pour faire les tests à travers une porte.
Quelle angoisse.
C'est quand même hyper angoissant.
Séparer les enfants, de 3 ou 4 ans.
Bien sûr,
non, mais
les envoyer dans des camps et on ne sait pas, ils disparaissent pendant une semaine, on ne sait pas quand ils reviennent, etc. C'est extrêmement terrifiant. Et par ailleurs, je rappelle quand même que les Chinois ont découvert à la faveur de la Coupe du Monde de foot là, les images, qui d'ailleurs ne sont pas diffusées,
oui,
et ont
voilà.
compris que le monde entier ne portait pas de masque et que seuls eux portaient
Il y a une censure sur les images. images de la Coupe du Monde quand on voit les tribunes, voilà. Pour pas que les Chinois puissent voir des gens qui ne sont pas masqués.
En effet, on comprend l'aberration totale, et je rejoins en cela tout à fait Yohann, parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on n'a pas dit ici en France en expliquant que c'était honteux, qu'on nous impose des choses honteuses, qu'on nous obligeait à ne plus pouvoir
lire les presse. Avant de parler de totalitarisme, il faut peut-être regarder.
Quand on voit ces images, même des hommes en blanc, en cagoule blanc, en combinaison blanche, qui viennent extirper des gens de chez eux parce qu'il y a un cas supposé de Covid, on se dit quand même qu'on est vraiment très très loin de la Chine. Et voilà. Et par ailleurs, en effet, il faut rappeler aussi que le vaccin chinois vraiment montre ses limites, et que la Chine a montré ses limites à force de ne pas vouloir du tout pouvoir être sur le modèle occidental et surtout par ego ne pas aller prendre un vaccin américain
personnelle.
Ou un vaccin européen, voilà aussi où ils en sont.
Alors Alexandre,
l'argument de Sébastien est très Chine, mais c'est pas ça, mais parce qu'on n'est pas au même degré que la Chine, ça veut dire qu'on devrait se satisfaire de ce qu'on a vécu.
J'ai l'impression que ce qu'il faut traduire, c'est quand on dit que la France est une dictature, un pays totalitaire, et tout ce qu'on a pu entendre de la part de certains, il y a un moment, regardez ce qui se passe en Chine avant de parler de totalitarisme.
Les gens qui y croient sérieusement, la réalité, c'est que nous devons faire le bilan de notre politique sans avoir à nous comparer à la Chine.
Moi, je crois, je n'ai pas le même point de vue, je crois au contraire qu'on a été fascinés par la Chine. Avant même le Covid, on nous a expliqué, les libéraux notamment, que parce que la Chine s'ouvrait un petit peu économiquement, elle allait devenir une démocratie. On l'a fait entrer dans l'OMC, elle nous a fait de la concurrence déloyale. Personne n'a réagi. D'ailleurs, il y a beaucoup de corruption en France par rapport aux dirigeants chinois. Et ensuite, sur le Covid, on a copié le modèle chinois sans se poser de questions et en faisant un exemple. Ensuite, moi, j'ai une petite divergence avec Jean-Sébastien Ferjou. Je me demande quand même s'ils s'en sont pas là, justement, précisément, à cause de la stratégie zéro Covid. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout d'immunité collective. Parce qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas été bien vaccinés. Il ne faut pas nous raconter d'histoire qui n'avaient pas le vaccin Pfizer, et on n'a pas ce cas-là. Donc là, ça montre bien que les stratégies de confinement n'étaient peut-être pas les bonnes stratégies pour se débarrasser de ce virus.
On va s'intéresser dans un instant à ce qui se passe.
Les variants actuels, c'est bien parce que ça circule, qu'ils sont moins...
Je n'ai aucune autorité. Hein. Je suis pas Xi Jinping, moi, je vous le dis sur le plateau. Hein. Je suis l'inverse. On va s'intéresser donc à ce qui se passe en France juste après la pause, puisque certains commencent à s'inquiéter d'une neuvième vague. 40 000 nouveaux cas par jour depuis une semaine. Faut-il s'inquiéter ? La réponse dans une poignée de minutes. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. On a évoqué la Chine juste avant la pub et cette colère qui enfle face à la stratégie zéro Covid. Retour en France, faut-il redouter une nouvelle vague épidémique de Covid ? Je me répète, hein. C'est la neuvième, donc c'est logique. Les chiffres de contamination remontent à la hausse, tout comme les admissions en soins critiques, avec une hausse de 15% sur la semaine écoulée. A priori, pas de mesures contraignantes pour le moment. On va faire le point sur tout ce qu'il faut savoir en termes de chiffres. Mais d'abord, un petit récapitulatif de la situation avec Mathilde Ibanez.
On l'aurait presque oublié, mais le Covid-19 fait son grand retour en France. Les contaminations au virus sont de nouveau en hausse, avec plus de 37 000 nouveaux cas positifs hier, selon Santé publique France, dans un contexte déjà tendu avec l'épidémie de la bronchiolite et l'arrivée de la grippe. De quoi craindre une neuvième vague. La semaine dernière, 4 679 personnes ont été hospitalisées pour Covid, soit une hausse de 10%. Les admissions en soins critiques ont-elles augmenté de 15% ces 7 derniers jours. Santé publique France encourage les Français à se refaire vacciner. Depuis le début octobre, une dose de rappel est à faire pour les personnes à risque, notamment tous les plus de 60 ans. Les épidémiologistes, eux, rappellent l'importance des gestes barrières, à commencer par le port du masque dans les lieux clos, notamment dans les transports en commun.
Yohann Uzaï, 40 000 nouveaux cas par jour depuis une semaine. La France entre dans la neuvième vague de Covid. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter ?
S'en inquiéter, vraisemblablement pas, dans le sens où c'est la neuvième, donc nous avons maintenant une certaine habitude de ces vagues-là. Le gouvernement, au début de la crise sanitaire, disait qu'il va falloir apprendre à vivre avec. Souvenez-vous, on nous disait « apprenons à vivre avec ». Je crois que nous avons progressivement appris à vivre avec ce virus. Alors nous avons perdu effectivement une partie des gestes barrières, nous sommes de plus en plus réticents à porter le masque, etc. Mais néanmoins, dans les périodes de pic épidémique, je pense que les Français peuvent comprendre qu'il faut peut-être éviter de se serrer la main, remettre le masque dans les transports en commun. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'y a pas nature à paniquer, me semble-t-il. Je crois que les Français ont désormais intégré que les personnes les plus fragiles doivent se faire vacciner, même si en ce moment, c'est vrai que les vaccinations sont quand même assez lentes. Mais voilà, en tout cas, la situation n'est pas dramatique au point qu'il faudrait éventuellement reprendre des mesures. On n'en est pas du tout là. Le gouvernement n'envisage rien de restrictif. Voilà, je crois que les Français doivent eux-mêmes prendre leurs précautions et, s'ils estiment nécessaire, se faire vacciner, etc.
Les Français, justement, que pensent-ils de cette vague qui arrive ? Franchement, c'est une vaguelette qui arrive. Faut arrêter de s'inquiéter. Non, mais faut arrêter de s'inquiéter. Vous voyez le chiffre qu'on vient de voir là. Justement, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut plus voir. Il ne faut plus regarder. Parce que le nombre de cas, pardon de le dire de cette façon, et on va en discuter, je voudrais qu'on entende le micro-trottoir, mais on s'en fiche du nombre de cas. On s'en fiche royalement. Ce qui doit nous inquiéter, ce n'est pas le nombre de cas, c'est la virulence de ce virus. Et à quel point il peut être évidemment nocif pour nous. Mais il peut y avoir 1 million de cas par jour. Si c'est un rhume et si c'est une grippe, on s'en fiche. Donc le nombre de cas, moi, je pense qu'il faut arrêter de jouer avec ces chiffres qui ne veulent plus rien dire. Qu'en disent les Français ? Écoutez-les.
Le froid et tout ça, les contaminations et tout ça, je pense que ça peut me faire peur, oui. Avec l'arrivée de l'hiver, ça fait un peu peur.
S'il y a un risque, un vrai risque, bah évidemment qu'on est inquiet. Mais après, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler des mesures du gouvernement. Du coup, à vrai dire, pour ma part, je l'ai un peu oublié.
J'ai déjà été vacciné 3 fois, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de rien du tout et j'attends la 4e. Je voudrais me refaire vacciner, oui, je vais me refaire vacciner.
S'il faut remettre le masque, on le remettra, voilà. Mais on va pas s'inquiéter quand même.
Plutôt bon zélé.
C'est du bon sens. C'est du bon sens.
C'est du bon sens, mais cela dit, je rejoins complètement Jean-Sébastien. C'est-à-dire qu'en effet, on ne teste plus du tout. On ne teste plus. Il y a beaucoup d'autotests. Donc, du coup, les gens sortent en fait des radars puisqu'on ne sait pas en fait si les tests sont positifs ou pas. Je vous rappelle par ailleurs qu'il y a eu une grève des biologistes, des laboratoires, et qu'il va y avoir à nouveau une grève de ces laboratoires. Donc, on aura encore une fois des chiffres qui vont être sous-estimés. Cela dit, moi, je suis quand même assez étonnée de voir le peu de pédagogie. Regardez, je pense qu'autour de cette table, si on faisait un test, est-ce que vous savez exactement où vous en êtes ? Est-ce que vous savez si vous devez faire une dose de rappel, une 4e dose, quand, etc. Je suis assez étonnée, en fait, parce que je trouve que beaucoup de Français ne savent pas exactement où ils en sont, quelle dose, combien de temps après, est-ce qu'ils doivent la faire maintenant, est-ce que c'est
assez
mois.
Les gens sont responsables.
Non, mais c'est pas un problème de responsable. C'est un problème de est-ce qu'il y a assez de communication à ce sujet, est-ce qu'il y a assez de pédagogie. Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a une lacune dans la matière parce que certaines personnes sont un peu perdues. Là, on voit des personnes plutôt âgées. On voit quelques jeunes, mais la tranche d'âge qui, on va dire, entre 30 et 50 ans, qui n'est pas dite à risque, est parfois un petit peu perdue par rapport aux consignes, un peu inexistantes ces derniers mois, il faut bien le dire.
Et d'autant qu'on voit que les données de vaccination montrent que ce sont les personnes les plus favorisées qui, justement, parce que ce sont celles qui, le plus naturellement, ont accès à l'information.
Et qui par ailleurs, sont en tir croisé, si j'ose dire, parce que souvent, ils ont des enfants, et qu'on voit qu'il y a aussi une épidémie, de grippe, de bronchiolite, et que tout ça mêlé, du coup, donne qu'on est un peu parfois perdu, voilà.
Il est quasiment 22h30, on va évidemment poursuivre cette discussion, mais d'abord, on passe par Isabelle Piboulot pour l'essentiel de l'actualité.
Caroline Cayeux a démissionné de son poste de ministre déléguée aux collectivités territoriales, une démission en raison d'un différend avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa déclaration de patrimoine étant jugée et sous-évaluée, Caroline Cayeux sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Faure. Comme le veut la tradition, la première ministre a planté son arbre dans les jardins de Matignon. Elisabeth Borne a choisi un chêne vert au feuillage persistant, une espèce emblématique du sud de la France. On anticipe sur le dérèglement climatique, s'est félicité la chef du gouvernement. La tradition avait été initiée en 1978 avec l'érable à sucre de Raymond Barre. Et puis, direction Doha pour le mondial, le Brésil file en 8e de finale après avoir battu la Suisse 1-0 grâce à un but signé Casemiro sur une passe décisive de Rodrigo. Malgré l'absence de la star Neymar blessé à la cheville, les Brésiliens sont en tête du groupe G avec 6 points. Les Suisses, eux, devront valider leur qualification vendredi contre la Serbie.
Merci beaucoup Isabelle. Le beau but de Casemiro. Et puis on a le Portugal qui vient tout juste de se qualifier. Victoire 2-0 face à l'Uruguay. Doublé, non pas de Cristiano Ronaldo, mais de Bruno Fernandes. Parenthèse refermée. Faut-il s'inquiéter de cette vague, la 9e qui approche ici en France? Écoutez le professeur Bruno Mégarban qui était sur notre plateau tout à l'heure. On va l'entendre dans un instant puisqu'on me dit qu'il faut patienter. Un petit mot, Karima, là-dessus. Franchement, ce sont des vaguelettes désormais qui sont limitées dans le temps par leur amplitude puisque les Français sont vaccinés dans leur grande majorité. Il y a une immunité plus collective dans le pays. Un mot et on entend Bruno Mégarban.
Oui, en fait, je pense sur la communication, il faut vraiment cibler les personnes qui sont les plus à risque. Et ça, ce sont les enseignements qu'on a eus de ces 3 ans de COVID. Alors oui, viser davantage les personnes qui ont des comorbidités, les personnes plus âgées. Donc la communication doit vraiment cibler ces gens-là. Et par ailleurs, moi, je suis assez heureuse qu'on ne soit pas dans la logique complètement paniquée, message d'alerte à tous les jours, 100%. Je pense qu'on a sous-estimé les impacts financiers, les impacts psychologiques de cette crise. Et aujourd'hui, on en vit encore les conséquences de justement de tout cet aspect psychologique.
Et il ne faut pas d'ailleurs l'inverse. Il ne faut pas que les Français s'inquiètent parce que c'est là que le gouvernement va réagir à coup de communication et de restrictions. Donc restons tous sereins.
Oui, rationnels, voilà, exactement.
Bruno Mégarban, on l'écoute.
Il commence à y avoir une hausse des cas à l'hôpital et en réanimation, comme ça a été dit. C'est encore discret. Mais il faut compter généralement une dizaine de jours par rapport à la hausse des contaminations pour voir de façon significative monter les hospitalisations. Maintenant, malgré tout, il faut être rassurant. On s'attend à ce qu'il y ait à nouveau, une faible augmentation des hospitalisations par rapport à la très forte augmentation attendue des cas de contamination.
Jean-Sébastien, c'est vrai qu'il y a une manière beaucoup plus calme de prendre la chose aujourd'hui et j'ai envie de dire bien heureusement.
Oui, tout à fait, mais c'est pour ça, ce qui compte, l'indicateur, ce qu'on disait tout à l'heure, ce ne sont pas le nombre de cas chaque jour, parce que de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens, vu qu'on ne fait plus du tout le même nombre de tests que nous avons pu faire dans le passé. Ce qui compte, c'est la pression sur le système hospitalier, et accessoirement, ou principalement, peut-être d'ailleurs, le nombre de morts. Il ne faut pas sous-estimer, malgré tout, il y a encore des morts. Maintenant, oui, le système hospitalier arrive à faire face, simplement... Il est face à la conjonction de beaucoup de choses. Donc le sujet d'inquiétude, ça n'est pas la 9e vague de Covid. Le sujet d'inquiétude, c'est la conjonction de l'épidémie de bronchiolite. Malgré tout, du Covid, c'est quand même plus ou moins 1000 personnes sur les 19 000 lits de soins critiques.
Avec des pénuries d'antibiotiques en France.
Et c'est la conjonction du manque de médecins. Parce qu'il y a quand même, il y a eu un sondage qui a été fait par l'association des patients qui montre qu'il y a 49% des gens qui disent avoir eu un problème dans l'accès aux soins. Il y a des opérations qui sont déprogrammées. Donc ça n'est pas lié en soi à cette 9e vague de Covid. En revanche, on voit que notre système de santé était déjà très désorganisé avant le Covid. Il l'est encore plus après le Covid et sans qu'on ait beaucoup vu d'actions politiques réelles permettant ne serait-ce que de donner l'impression qu'on va redresser les choses.
Alexandre Devecchio, papy et mamie dans le placard à Noël, c'est terminé ça, on ne veut plus en entendre parler. Le gouvernement marche sur des œufs et on comprend bien pourquoi. Ce serait quand même extrêmement étonnant dans les semaines, les mois qui viennent de voir apparaître de nouvelles restrictions.
Ça ressemblait déjà à papy et mamie dans le placard à quelque chose de surréaliste.
Dans le placard d'ailleurs, mais c'était
à la cuisine.
C'était à la cuisine, mais c'était quand même surréaliste. Donc on n'était pas dans un régime totalitaire comme la Chine, mais on était quand même chez les pieds nickelés qui s'invitaient dans notre cuisine. Donc heureusement qu'on a arrêté ça. Vous m'apprenez qu'on est à la 9e vague. Moi, très franchement,
c'est parce que j'ai fait des recherches pour préparer.
J'avais perdu le fil. Non, vous l'avez dit, ce qu'il faut compter, c'est les...
À la 10e, vous avez un masque gratuit qui arrive.
Alexandre en apnée depuis la première.
Ce qu'il faut compter, c'est les cas graves. Mais après, Jean-Sébastien Ferjou a raison de le souligner. C'est pour ça qu'on en parle. Je pense qu'on n'en parlerait pas. C'est l'état désastreux de notre système de santé. Et je pense qu'on est sorti de ces 3 ans de crise sans qu'il y ait aucun changement. Et même le système est encore plus affaibli qu'il ne l'était au début. Donc le pire est toujours possible. Effectivement, une conjonction de faits négatifs, je ne sais pas, une grosse épidémie de grippe pourrait nous mettre de nouveau à genoux. J'espère que là, il y aura les hommes politiques qui pourront faire leur autocritique, qui nous proposeront des solutions à long terme pour sauver le système de santé.
La solution, ce n'est pas de réintégrer les soignants non vaccinés, ça on l'a compris.
D'après le gouvernement, effectivement, et qui ne recommenceront pas avec leurs histoires de confinement et d'infantilisation, qu'ils auront enfin un discours de vérité. Parce que tout ce qui a été mis en place, ça a été mis en place pour faire écran de fumée et pour pallier cette catastrophe qui est le fait que nos hôpitaux, qui étaient les meilleurs du monde il y a quelques années, ne ressemblent aujourd'hui plus à rien.
Sinon, est-ce que quelqu'un a des nouvelles du ministre de la Santé, de François Braun?
Je ne sais pas. Je ne sais pas
ce qu'il en dit de tout ça. Il est quand même très très discret, François Braun. Enfin, quand on sait ce qu'on a connu avec Monsieur Véran. François Braun.
Mais parce qu'Alexandre a raison, il est confronté à de multiples crises. En effet, un manque de lits, un manque de soignants, un problème des laboratoires qui sont en grève, les médecins libéraux et les généralistes qui sont aussi en grève parce qu'on demande d'aller pallier le problème du manque dans les déserts médicaux.
Ils sont sous-payés. Se montrer, non ?
Les infirmières qui étaient en première ligne aussi, qui sont sous-payées, qui aimeraient aussi être augmentées. Enfin, on a un sacré problème, vous avez tout à fait raison, en effet. Et c'est vrai que ce ministre-là, j'ai l'impression, ne gère pas très bien pour l'instant les choses. En tout cas, il n'y a pas d'avancée significative. Voilà,
il a fait quand même pas mal de déplacements, justement. Il va voir les hôpitaux, etc. Mais après, moi, ce qui me frappe, c'est quand on fait.
Mais il n'y a pas de mesures fortes, Jean-Sébastien, à part le désengorgement des urgences.
Il n'y aura pas de baguette
avec
magique.
Avec ce système de fléchage vers le 15, qui est une mesurette, franchement, provisoire, mais à terme.
Je suis d'accord avec vous, mais le ministre de la Santé ne pourra pas décider qu'on revient sur la gabegie de dépenses publiques dans ce pays. Le problème, ce n'est pas en soi le nombre de fonctionnaires, c'est à quoi sont occupés les fonctionnaires. Donc le ministre de la Santé ne peut pas à lui seul faire les réformes que Emmanuel Macron n'a pas le courage de faire, parce que dès qu'on en parle, on dit que c'est de la sauvagerie libérale. Mais sinon, autre chose quand même, parce que c'est quand même profondément dommage, parce que nous ne sommes pas à l'abri, malgré tout, de variants qui seraient beaucoup plus agressifs que ceux qu'on connaît ces derniers temps. Il y a une grande étude qui est parue dans Nature en début de mois, c'est quand même 400 experts originaires de 100 pays qui le disent et le répètent, la vaccination seule ne peut pas suffire à enrayer une épidémie.
C'est pour
vous aurez
ça
constaté,
que...
comme moi, que le plan français s'est limité à la vaccination, oui. Rien que la vaccination, toute la vaccination et encore la vaccination, tout en oubliant d'ailleurs d'aller au bout, et rien sur l'aération. C'est mon petit vélo, vous le savez.
Oui, c'est vrai, vous adorez ça.
Sauf que là, quand même, il y a 400 experts de 100 pays qui disent que oui, il aurait fallu le faire. Ben voilà.
En revanche, et pour conclure, c'est vrai ce que disait Tatiana il y a quelques minutes, et pour aller plus loin dans ce que je disais par rapport à l'absence, je trouve, du ministre de la Santé, encourager les personnes les plus âgées à se faire vacciner. Là, le gouvernement serait bien inspiré dans cette période charnière de communiquer fortement là-dessus et d'inciter donc les personnes fragiles ou âgées à se faire vacciner. Bon, on va voir ce qui nous attend, mais franchement, restons zen. Ça va bien se passer, comme on dit. Tout autre sujet, alors qu'une proposition de loi est examinée à partir de ce soir à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, si vous avez des infos, parce que je crois que c'est en train d'être discuté, pour protéger plus efficacement les propriétaires de logements contre les squats et les loyers impayés, les équipes de CNews ont rencontré un propriétaire totalement démunis face à ses locataires qui ne payent plus leur loyer depuis 6 ans maintenant. Regardez ce sujet de Clémence Barbier et Florent Ferraud.
Yann est épuisé par la bataille judiciaire qu'il oppose à ses locataires.
Des locataires qui ne payent pas depuis déjà depuis 2016. C'est totalement ubuesque. C'est que finalement, on est presque en train de faire payer le propriétaire, d'avoir acheté une maison et aujourd'hui de se retrouver quasiment tributaire de son locataire.
Sous le coup d'une expulsion, les mauvais payeurs devaient quitter le logement le 22 septembre dernier. Et quelques jours plus tôt, les huissiers informent Yann d'une nouvelle décision.
Malheureusement, on apprend le 16 septembre que cette expulsion-là, elle a été annulée. C'est un petit peu le mystère puisqu'on n'a pas de réponse par rapport à ça. Nous, on a fait beaucoup de demandes par le biais de nos huissiers et par le biais d'avocats aussi pour savoir justement pour quelles raisons aujourd'hui la préfecture ne fait pas d'action.
Actuellement, la peine encourue pour un squatteur ou un mauvais payeur est plus faible que pour un propriétaire qui tente de faire justice soi-même. L'Assemblée nationale examine aujourd'hui une proposition de loi pour protéger plus efficacement les bailleurs. Un texte pas assez efficace, selon Yann.
Mais la finalité, en fait, elle restera toujours la même. C'est qu'à partir du moment où, malgré le fait qu'on ait validé l'expulsion judiciairement, on ne puisse pas sortir une personne de l'appartement derrière parce que la préfecture ne peut pas le faire, finalement, le problème reste le même.
Depuis 2016, ce propriétaire estime avoir perdu 80 000 euros.
Ça fait mal au cœur, Yohann Uzaï, comme à chaque fois qu'on relate ce type d'histoire. Est-ce que la loi qui est sur le point d'être votée ou pas, d'ailleurs, va protéger les propriétaires dans notre pays ? Enfin, j'ai envie de dire.
A priori, elle sera votée parce que le gouvernement y est favorable et que la droite, LR, le Rassemblement National, vont le voter également. Donc elle sera votée. Ça va être la gauche est vent debout. Hein. La gauche considère que ça va créer des milliers de SDF, etc. que c'est une loi qui est beaucoup trop dure.
On va y revenir là-dessus. Là, on voit les peines actuelles et on va voir ce qui pourrait changer à l'écran dans un instant.
Les arguments de la gauche, vraiment, sont un peu incompréhensibles. Hein. J'en y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils utilisent des arguments qui vraiment laissent complètement de côté les propriétaires.
On va en parler juste après.
Donc cette loi sera à l'évidence votée. Que dit cette cette loi, les peines seront triplées, les peines encourues par les squatteurs. On est aujourd'hui à 1 an de prison, 15 000 euros d'amende, ce sera 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. En fait, l'idée, c'est de dire que si vous squattez un appartement ou une maison, eh bien, c'est comme si vous aviez volé, en quelque sorte, cet appartement ou cette maison. C'est assimiler le squat au vol, donc ce qui fait que ça triple la peine encourue. L'objectif de la loi, c'est de faciliter aussi les expulsions, en tout cas d'accélérer le rythme de la justice pour que, à partir du moment où vous avez déposé plainte et le moment où on expulse la personne, que ce délai qui est aujourd'hui extrêmement long et qui génère des souffrances énormes pour les propriétaires, l'objectif c'est de réduire ce délai-là.
Ce qui peut nous inquiéter, Johan, malgré cette loi, c'est que l'État, quand il expulse des squatteurs, il est à sa charge
de les reloger.
Donc, vous pouvez faire la loi que vous voulez. Est-ce que l'État a intérêt à accélérer cette judiciarisation si derrière, c'est lui qui est responsable de reloger les gens? Parce que j'ai l'impression que moi, que les juges votent un peu en touche parce qu'ils savent que derrière, il faut les reloger.
Non, mais il y a l'argument que vous employez, mais ce n'est pas pour cette raison-là que l'État a intérêt à faire en sorte que le marché immobilier soit beaucoup plus fluide. C'est parce que précisément, l'offre sur le marché locatif s'est beaucoup réduite ces dernières années.
De mettre leur bien
parce
location,
que si vous êtes propriétaire, c'est infernal. Mais oui, mais vous voyez bien que c'est totalement contre-productif.
Mais je vois ces textes qui sont.
Daniel Simonet de la France Insoumise, Johan, le disait, dit que c'est une machine à créer des SDF. On est en plein délire. La ville aux États-Unis où il y a le plus de SDF, c'est San Francisco. San Francisco qui est allé le plus loin, justement, dans le genre de mesures inspirées de l'Europe, comme l'encadrement des loyers, etc. Toutes ces mesures-là, le sujet, c'est pas la souffrance des propriétaires. Bien sûr qu'il faut savoir l'entendre et la prendre en compte. Ce qui est catastrophique, c'est que ces mesures-là d'encadrement des loyers, de ne pas pouvoir expulser les gens qui ne payent pas leur loyer, etc., c'est ce qui a fait que les gens n'investissent plus dans le locatif.
Mais je suis assez sceptique parce que je vois mal quelqu'un qui ne paye pas son loyer aller en prison. Pourquoi faire une peine à 45 000 euros et 3 ans de prison? Jamais quelqu'un qui ne paye pas son loyer va aller en prison.
C'est l'application. Si on appliquait déjà les lois qui existent, on n'aurait pas besoin de les alourdir. Mais là, on va vers de graves problèmes parce que, pareil, la réglementation sur la rénovation thermique va pousser un certain nombre de propriétaires à sortir leur bien du marché locatif, notamment parce que la fiscalité n'est absolument pas adaptée. On ne se rend pas compte de la bombe que ça représente. Nous allons vers une crise majeure du logement. Et ça, je vais vous dire, c'est très grave. Ça sert à rien de se lamenter sur le niveau des salaires parce que le pouvoir d'achat, c'est très, 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 très lié à l'immobilier, à la part qui vous reste à vivre une fois que vous avez fini de payer votre logement.
Johan l'évoquait donc il y a un instant. La gauche, une partie de la gauche, en tout cas, qui est vent debout
toute la gauche.
Vous avez gagné. Plusieurs associations de défense des mal logés ont manifesté d'ailleurs hier afin de montrer leur opposition à cette proposition de loi. On aimerait bien voir si ces gens qui ont manifesté ont déjà vu leur logement squatté parce que je pense que ça, quand même, ça fait un petit peu travailler de vivre une situation comme celle-là. Pour les associations, vous dites
ils vivent autre chose en fait. Eux, ce qu'ils défendent, c'est qu'il y a 288 000 ménages qui sont en état d'impayé au premier trimestre, qu'il y a énormément de précarité de logement et qui s'accroît et qui malheureusement s'aggrave avec l'inflation, avec justement la crise énergétique. Et donc eux, en fait, ce qu'ils défendent, ces associations-là...
C'est l'aggravation du problème.
C'est de considérer qu'en fait, il va y avoir une multiplication des expulsions et que du coup, il va y avoir en fait une précarité.
Et les propriétaires, on leur crache au visage, en fait.
De ces populations-là qui sont déjà en extrême difficulté. Et donc, en fait, c'est ce qu'ils veulent éviter. Donc, en fait, je pense qu'il faut qu'on dissocie dans ce débat deux choses.
Sauf qu'ils ne l'éviteront pas.
Mais là, en fait, on est en train de faire un boogie-boogie de quelque chose. C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'on dissocie d'une part, en effet, les propriétaires qui louent à des personnes et qui n'arrivent plus à payer leurs factures, et comment on fait pour arriver à trouver un modus vivendi pour que les propriétaires puissent retrouver quand même leur bon droit, mais avoir quand même ces locataires en précarité qui arrivent quand même à payer quelque chose, ou en tout cas avoir un toit. Et d'autre côté, les squatteurs, tout simplement le squat pur et dur, comme on l'a vu cet été, ou le nombre d'affaires qu'on voit, où des logements vacants se font squatter par une personne, une femme, cet été à Marseille, ou des couples, qui considèrent qu'ils sont chez eux, et qu'un propriétaire ne peut pas expulser alors qu'il doit payer les charges.
Propriétaire d'un 300 mètres carrés du Foch, à mon avis, vous n'allez pas squatter chez quelqu'un.
Ce sont deux choses différentes, donc il faut quand même qu'on le dissocie.
Je voudrais juste rappeler aussi quelque chose pour que nos téléspectateurs qui n'ont pas forcément le dossier en main comprennent bien. Aujourd'hui, un propriétaire ou une propriétaire qui change sa serrure, c'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. C'est plus que ce qui est encouru. Oui, mais il faut comprendre que mettre une serrure, c'est se faire justice soi-même. Déjà, il y a une forme d'aberration. Et donc, c'est plus que ce qui est encouru aujourd'hui, dans la loi actuelle, par le squatteur.
Plus que le durcissement de la peine qui, effectivement, ne sera pas appliqué, même si symboliquement, c'est intéressant. Ce qui est intéressant dans la loi, c'est le fait que désormais, ça ne passe plus par le juge. C'est-à-dire, c'est au préfet. Si la police constate qu'il y a squat, le préfet peut ordonner ou même doit ordonner dans les 48 heures une expulsion. Maintenant, est-ce que l'État prendra ses responsabilités et le fera? Mais je trouve que le principe est intéressant et pourrait même s'appliquer dans d'autres cas. Je pense notamment à la question de l'immigration. On souffre d'une judiciarisation excessive de cette question et je pense que certains contrôles devraient se faire a posteriori et on devrait confier la responsabilité au préfet des expulsions ou des reconduites à la frontière.
Il y a l'impression que le droit au logement et le droit à la propriété sont absolument irréconciliables. Donc, que c'est la cohabitation des deux est impossible.
Non, mais c'est pour dire que c'était une petite révolution de plus en passer par le juge. Maintenant, il faut que l'État ait le courage d'aller jusqu'au bout. Je pense que le droit opposable au logement, ça fait partie de ces grands principes qu'on proclame, mais qu'on n'est pas capable d'appliquer. Donc, il faudrait supprimer ce truc-là parce que c'est absolument ridicule et on voit que l'État se retrouve piégé par lui-même. Et je rejoins Jean-Sébastien Ferjou. Le système actuel est terrible pour les propriétaires, mais il est terrible aussi pour les locataires, puisque les propriétaires ne veulent plus loger, ne veulent plus louer, et ça devient impossible pour quelqu'un de modeste de se loger, notamment à Paris et
même
de louer.
Dans les immeubles neufs. Aujourd'hui, vous avez des immeubles neufs qui sont réquisitionnés par des réseaux organisés.
C'est toujours pareil, au nom de grands principes égalitaires et charitables, on nuit aux plus humbles et aux plus pauvres.
Les seuls qui peuvent se loger en location sont des gens qui ont 27 parents leur porter une garantie et une caution. C'est pour ça que je vous disais, il faut bien distinguer la question des squatteurs, qui est à vrai dire relativement marginale, malgré tout, quand on regarde le nombre de cas, ils sont saisissants.
200 cas
et c'est marginal, de la question des gens qui n'ont plus les moyens de payer leur logement, parfois quand même à mauvaise foi, il faut le dire, parce que les mêmes continuent à payer les abonnements de leur téléphone, etc. Enfin, et donc, il faut faire la distinction entre les deux, mais encore une fois, s'il n'y a pas une politique massive sur le logement, nous allons dans le
mur. Et ça, c'est la grande oubliée de la dernière campagne présidentielle. On en a beaucoup parlé, parce que c'est aberrant qu'on n'ait pas assez parlé du logement. Il y a un vrai problème, en effet, de manque de logements neufs et aussi social.
On avance dans nos sujets, on verra évidemment dans les prochaines heures, c'est Yohann qui m'alertera dès que la loi sera votée. De très violents débordements hier après le match entre la Belgique et le Maroc à la Coupe du Monde, match remporté par le Maroc et derrière un déchaînement de violence, des voitures caillassées, des hordes de voyous déchaînés notamment à Bruxelles. Regardez ces images commentées par Clémence Barbier.
Scène de chaos à Bruxelles hier soir. Voitures et mobilier urbain sont brûlés. Des dizaines de personnes, dont une partie cagoulée, affrontent les forces de l'ordre. Quelques minutes après la victoire du Maroc contre la Belgique à la Coupe du Monde de football. Ces Bruxellois déplorent cette violence.
C'est dommage qu'ils tous en rage après le match, mais voilà, ça devrait rester que du football, ça devrait rester dans l'esprit sportif, mais voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça.
Ça a commencé à la mi-temps, on ne sait même pas qui a commencé, qui a fait allumer le feu, on ne sait pas.
Le retour au calme est revenu aux alentours de 19h. La police a procédé à 11 interpellations et une personne a été placée en garde à vue. À Liège, une cinquantaine d'individus ont attaqué un commissariat. Dans le nord du pays, à Anvers, une dizaine de personnes ont également été arrêtées.
Comment peut-on en arriver là? Je rappelle que le Maroc a gagné. Donc pourquoi ce déchaînement de violence? Il n'a aucune raison d'être en colère, Alexandre.
Oui, moi, on parle.
Et la Coupe du Monde est loin d'être terminée. Hein.
On parle de débordements liés au football, mais il y a clairement un problème, je dirais, d'intégration et un problème avec une immigration voilà, qui n'a pas su s'intégrer, qui est parfois binationale, qui a la nationalité belge, mais qui est d'origine marocaine et qui manifeste. Qui se prend le prétexte le football pour manifester une forme de défiance, je dirais, à l'égard de la Belgique. Mais on a vécu exactement la même chose avec l'Algérie plusieurs fois en France. Et c'est ce sont dans
des
quartiers.
L'histoire entre, enfin, même si évidemment il n'y a rien à cautionner là-dedans, mais l'histoire entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec celle entre le Maroc et la Belgique. La Belgique n'a jamais colonisé ou annexé. Le Maroc de
oui,
près
mais
ou de loin.
L'histoire est différente, mais les difficultés d'intégration, je crois, sont les mêmes. Il faut dire que c'est dans des quartiers aussi où on a concentré un certain nombre de populations. J'ai publié une tribune dans le Figaro d'Alain Destex, qui est sénateur belge, qui explique que ce sont des quartiers où la population d'origine marocaine est quasiment majoritaire et donc vit selon les mœurs dans son pays d'origine et n'a pas pu s'intégrer. Et fait preuve de ressentiment, c'est ça qui est paradoxal, pour être au moins heureuse de vivre selon ses propres mœurs dans un pays étranger, mais elle manifeste une forme de défiance. Voilà, c'est pas tous les Belges d'origine marocaine, mais c'est quand même révélateur de quelque chose qu'on a vécu aussi, je crois, en France. Et on voit bien que le prétexte de la colonisation, vous en parlez, est aussi un prétexte, puisqu'effectivement, l'histoire de la Belgique et du Maroc est totalement différente.
Écoutez le commissaire Lebars, qui était tout à l'heure chez Laurence Ferrari, qui réagissait à ces images.
Malheureusement, le foot, pas tout le foot, pas tous les supporters de foot, mais le foot produit ce genre de festivités, entre guillemets, qui sont des festivités qui ne sont pas liées au résultat, parce que, comme vous le dites, qu'il y ait victoire ou défaite, il y a maintenant, à cause du foot, à cause de certaines nations, parce qu'il faut aussi dire les choses, vous avez un certain type de supporters qui descend dans la rue, et quel que soit le score, victoire, défaite, match nul, vous avez des dégradations. Je constate avec regret que nos amis belges, qui sont nos voisins, ont les mêmes difficultés que nous.
Il n'y a pas de message, c'est de la violence gratuite. Karima. Karima Brick.
Bah oui, c'est de la violence gratuite, effectivement. C'est démonstration et même de mépris et de haine aussi. Et c'est malheureux parce que c'est une partie de la population. Ce n'est pas évidemment l'ensemble de cette population. C'est une partie. C'est normal d'avoir un sentiment d'attachement, par exemple, avec le pays, par exemple, son pays d'origine, mais le pays d'origine de ses parents, de ses grands-parents. Ça, c'est très bien. Mais ensuite, ce retournement, cette haine, ce mépris, c'est un échec donc d'intégration d'une partie de cette population. Ça, c'est sûr. Et il faut dire aussi, je dirais, il faut rebâtir. Je ne sais pas comment on peut faire ça, mais probablement, peut-être pour la prochaine génération, rebâtir ce qui nous unit, pas juste toujours mettre l'emphase sur nos différences. Et je trouve malheureusement qu'aujourd'hui, on a une logique aussi, hein, des idéologies en puissance. On parle de racialisme, de multiculturalisme, de wokisme, certains diront peut-être, qui encourage encore une fois de se replier dans ses origines, sur notre couleur de peau, par exemple, et qui accentue cette division entre tous les membres de la population. Donc ça, c'est un véritable problème et rien pour aider donc, et pour favoriser ce vivre ensemble, finalement.
Il y a cette image qui a fait beaucoup réagir. Je ne sais pas si Martin Guillard peut nous la jouer. C'est cet homme qui vient arracher, regardez, ce drapeau belge d'un balcon, arraché d'un balcon devant une foule en liesse. Encore une fois, je le répète, la Belgique n'a jamais colonisé le Maroc. Il n'y a pas de passé entre les deux pays, pas d'histoire conflictuelle entre les deux pays. Comment on explique cette symbolique?
Quand bien même la Belgique aurait colonisé le Maroc, je ne vois pas bien la logique d'aller arracher un drapeau belge.
Non, mais il y aurait eu une matière à expliquer. Quand bien même ça peut paraître absurde. Bon, alors si la Belgique, pendant tant d'années, a fait ci ou ça au Maroc.
Je suis tout d'accord avec la théorie de la violence gratuite, parce que cette image, elle prouve exactement l'inverse. Et il n'y a pas que à Bruxelles qui a eu des heurts hier. Il y en a eu à Anvers aussi. Il y en a eu à Liège. Il y a un commissariat qui a été pris d'assaut. Il y en a même eu aux Pays-Bas d'ailleurs, à Amsterdam, exactement pour le même match, mais parce qu'il y a différentes réalités qui coexistent. Déjà, le royaume du Maroc considère que ses ressortissants jusqu'à la quatrième génération, même s'ils n'ont plus la nationalité jusqu'à la quatrième génération, qu'ils continuent à être des sujets du royaume marocain. Donc ça ne participe pas à l'intégration. Et il y a une faiblesse. Regardez, ce genre de scène, elle se passe beaucoup moins aux États-Unis parce que l'Europe est perçue comme faible. On en parlait la semaine dernière, ou je ne sais plus si c'était sur ce plateau, mais on parlait de Malika Sorel, justement, c'était peut-être dans Punchline. Mais Malika Sorel, vous savez, qui faisait partie du Haut Conseil à l'intégration et qui explique très bien comment ce que nous percevons comme de la tolérance, comme de la diversité, ce que disait Karima, cette espèce d'idéologie woke, très ouverte aux autres, est en réalité perçue comme de la faiblesse par un certain nombre de cultures, notamment nord-africaines. Et c'est ça le sujet, c'est qu'ils nous perçoivent comme faibles. Alors, bien sûr qu'il y a une réalité de difficulté d'intégration économique et sociale qui est incontestable. Il y a des quartiers extrêmement difficiles dans la banlieue, dans la périphérie de Bruxelles. Mais ça n'est pas une raison. Et la grande différence, je vais vous dire, entre les États-Unis et l'Europe, je crois que d'ailleurs, j'y pensais, c'était Stephen Smith qui le disait aussi, voilà, qui disait la différence, c'est que l'Europe attire les gens qui sont les plus faibles, finalement, là où les États-Unis attirent ceux qui sont prêts à jouer le jeu du marche ou crève. Mais aussi longtemps que nous continuerons... Mais oui, mais c'est une réalité aussi.
C'est les conditions qu'on impose aussi ou pas?
Je voudrais qu'on entende Alain Bauer.
Mais cette réalité-là, le fait que nous, on pense que nous soyons tolérants alors que là, ils nous voient uniquement comme des faibles. De toute façon, aussi longtemps qu'on ne changera pas d'attitude, il y aura ces images-là et elles seront de pire en pire.
Le criminologue Alain Bauer qui donne son analyse ce matin au micro de Laurence Ferrari sur ce qui s'est passé donc hier soir à Bruxelles.
Et donc la violence est devenue un instrument de régulation de la société à la place de la loi. C'est un processus que Émile Durkheim appelle l'anomie, c'est-à-dire le moment où les règles sont tellement mises en cause, sont tellement remises en cause, battues en brèche par l'évolution de la société, par la baisse de l'autorité, non seulement de l'État, mais des parents, de la famille, de l'école, bref, de tout ce qui faisait lien avant, qu'on contourne la règle par la violence, et c'est la loi du plus fort qui remplace la loi tout court. Et donc ce processus-là entre là-dedans. Vous avez dans le football des supporters, qui sont des gens qui aiment le football, des ultras, qui sont des gens qui aiment le football et qui sont parfois un peu agités, et des voyous qui aiment la violence et qui se servent du football pour s'exprimer.
C'est intéressant, Tatiana Renard-Barzac, en effet. Le message, c'est on est chez nous, vos règles ne sont pas les nôtres. Ça rappelle aussi, pardon, peut-être que vous ne serez pas d'accord et on est là pour en discuter. Ça rappelle certains mariages communautaires. Vous savez, vous avez ces familles qui bloquent des bretelles d'autoroute ou qui s'accaparent la voie publique. C'est on est chez nous, sont nos règles, c'est nous qui faisons ce que nous voulons.
Je n'irai pas sur ce terrain-là parce que moi, justement, je trouve qu'il dessert la focale. Donc oui, il y a des problèmes avec les mariages communautaires, si c'est ça que vous voulez me faire dire.
Ah non, je ne veux rien vous faire dire, je vous l'ai dit en préambule.
Cela dit, ce que je trouve très intéressant dans ces propos, et même dans les propos précédents du commissaire justement David Le Bars, c'est qu'ils élargissent la focale et ils considèrent que, ça a toujours eu lieu des violences dans le foot. Ça a toujours eu lieu, malheureusement. On l'a vu ces dernières années avec différents matchs. On le verra peut-être aussi mercredi, malheureusement, pour le match France-Tunisie.
Alors, on va y venir.
Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on peut dire, c'est que lié à une nationalité ou c'est que lié à des étrangers. Sauf que, pardon, je vous rappelle quand même qu'il y a des hooligans, qu'on a vu au Stade de France il y a quelques mois aussi, des débordements
avec les hooligans. J'ai jamais vu des hooligans saccager des villes après des victoires en Coupe du Monde.
C'est pas une façon de nier ce qui s'est passé en Belgique. C'est juste que cette obsession de regarder chaque événement avec juste un spectre et une focale est absolument, je trouve, odieux. Voilà, mais comme je serai tout à fait en minorité sur ce plateau pour dire ce genre de
problème. Non, mais on va vous répondre quand même parce que.
Vous êtes tous d'accord, évidemment.
Mais je vois pas ce qu'il y a d'odieux à souligner une réalité. Les hooligans, ils se tapent entre eux. J'ai pas vu de hooligans enlever le drapeau français pour mettre le drapeau anglais. Donc il y a une spécificité à ces violences. Ne pas le voir, je trouve, c'est faire preuve d'aveuglement.
Deux choses, chers amis. Le faire
remarquer, c'est peut-être permettre de pointer le doigt sur un problème réel.
En même temps,
c'était très intéressant l'analyse qu'il faisait justement sur cette violence.
C'était pas courageux du tout.
C'est très intéressant, justement.
Mais regardez, je voudrais juste montrer le contraste. S'il vous plaît, laissez-moi en placer une. Je voudrais juste vous montrer le contraste, parce que là aussi, ça veut dire quelque chose. Ça contraste les images qu'on voit en Belgique avec les réactions au Maroc. Les images à Marrakech hier soir lors de la victoire, magnifique victoire du Maroc. Ils ont raison de célébrer, c'est un exploit retentissant. Regardez si on peut les envoyer, ces images au Maroc hier à Marrakech. Les gens sont en liesse, il y a des drapeaux dans les voitures et ils ont bien raison de célébrer parce que c'est pas tous les jours que le Maroc peut venir à bout de la Belgique dans un match de Coupe du Monde. Ça pose la question, en effet, de l'intégration, de l'assimilation de jeunes qui ne se sentent pas belges comme d'autres ici ne se sentent pas français, parce qu'au Maroc, ça s'est passé idéalement. Et on est très heureux d'ailleurs pour le peuple marocain de cette victoire.
Oui, mais pour répondre à Tatiana,
le problème
aussi,
d'intégration et on le paye chèrement, ça c'est sûr.
Et sans vouloir polémiquer, mais à l'évidence, il y a de la violence dans le foot, d'accord, mais certains matchs avec certaines nationalités sont toujours
France-Algérie 2001,
plus problématiques. D'ailleurs, au ministère de l'Intérieur, on le sait, quand la France joue contre l'Algérie, c'est considéré comme étant un match hautement sensible. On le sait. Voilà.
Ensuite,
il y a le Maroc et ensuite il y a la Tunisie.
Mais là-dessus me semble un petit peu réducteur.
Mais on ne peut pas non plus faire abstraction de ce débat-là, parce qu'effectivement, il y a de la violence en général dans le foot. Vous parlez des hooligans, etc.
Alors,
mais il y a aussi ce problème avec certaines nationalités qui reflètent à l'évidence,
un problème
d'intégration et de volonté d'assimilation. On peut pas nier ça.
Ayons justement ce débat-là, ce problème de l'intégration, de l'assimilation.
Mais c'est exactement de ça
qu'on dit.
C'est exactement de ça dont on vous a parlé.
Mercredi 16h d'ailleurs, ce sera le dernier match des Bleus en poule, donc contre la Tunisie. Écoutez le commissaire Le Bars, est-ce qu'on doit craindre cette rencontre? Y aura-t-il un dispositif particulier en France dans les grandes villes? Écoutez-le.
Il y a déjà eu des briefings et il y en aura un la veille de ce match-là pour que le dispositif parisien, mais également dans les grosses villes françaises, soit en place. Parce qu'après des matchs comme ça, quand la France joue face à une équipe comme la Tunisie, c'est pas intensité maximale en termes de risque, mais c'est un match entre guillemets à risque, en tout cas pour l'après-match, pour ce qui est des festivités, je dis bien entre guillemets, parce que je crois que tout le monde n'a pas le même sens de la fête.
Mais rendez-vous mercredi.
Mais le simple fait, regardez, que nous soyons en train d'en parler, de toute façon, ça participe du phénomène. C'est comme les voitures brûlées. Vous voyez bien qu'il y a une volonté de démonstration. Et c'est là où ne pas vouloir le voir, Tatiana, alors peut-être je vais l'adapter à vous.
Non, relancez pas, parce que c'est vraiment une dernière question.
Mais c'est du maternalisme. C'est-à-dire, est-ce que vous imaginez une seconde que le Maroc tolérerait que des citoyens français se comportent comme ça au Maroc? Est-ce que vous imaginez un dixième de seconde que les Qataris toléreraient que des supporters occidentaux se comportent de cette manière-là? Je suis désolé, ce ne sont pas des mineurs qui devraient être protégés, on devrait faire semblant de ne pas voir la réalité. Il pose problème, oui, bien sûr, parce que ça s'inscrit dans une problématique d'intégration beaucoup plus large.
Il est 23h, on aura l'occasion, mercredi. Ben non, mais c'est l'heure, Tatiana, j'ai bien compris. Alors, je vous donne 20 secondes.
Je veux bien, en 2 secondes, pardon. Là, on est en train de généraliser, dire le Maroc. Non, ce ne sont pas les Marocains, ce sont quelques jeunes et quelques Marocains.
Personne, je n'ai pas entendu dire le Maroc, les Marocains.
Deuxième chose, si je peux terminer, merci Karima. Deuxième chose, il y a un vrai débat à avoir. En effet, en ce cas-là, sur comment est-ce qu'on fait, c'est un échec de l'intégration. Quand on voit ça, en ce cas-là, comment est-ce qu'on fait justement pour ne pas être forcément la stigmatisation et le rejet, mais arriver justement à intégrer...
Et qui rejette qui, là?
Oui, mais c'est ça que j'allais dire, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes...
Non, mais ce qu'on a vu hier soir à Bruxelles, qui rejette qui?
Il y a beaucoup.
Non, mais c'est grave, les images qu'on voit, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est là à commenter depuis ce matin, vous commentez ces images-là. Mais est-ce que vous avez réfléchi à comment on fait justement pour arriver à arrêter ça, à dépasser ça? Est-ce qu'on a discuté de ça? Non,
c'est ça.
On est juste dans des incantations et juste dans une dénonciation.
C'est de ma faute parce que je relance. C'est de ma faute. Il est 23h01. Pardon Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité.
Épidémie de Covid-19, faut-il s'attendre à une 9e vague en France? C'est ce que craignent les autorités. Avec plus de 37 600 nouveaux cas ces dernières 24 heures, les contaminations repartent à la hausse dans le pays. Les hospitalisations, elles aussi, augmentent et pourraient être plus importantes avec les fêtes de fin d'année. Dans l'actualité internationale, cette crainte en Ukraine, les responsables du pays disent s'attendre à de nouveaux bombardements russes cette semaine. Les précédentes frappes ont visé des infrastructures critiques et provoqué des coupures massives d'eau et d'électricité, notamment dans la capitale. La région de Kiev est d'ailleurs privée de courant à 40%. Un super cartel de cocaïne démantelé à Dubaï en Europe. Une vaste opération policière a permis l'arrestation de 49 suspects dans divers pays. Ce réseau contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe. 30 tonnes ont été saisies. La drogue venait essentiellement d'Amérique latine et transitait par les ports de Rotterdam et Anvers. Et puis, encore un peu de patience. Mercredi, l'équipe de France jouera son 3e match face à la Tunisie. Didier Deschamps confirme qu'il y aura bien une rotation de certains joueurs. Le sélectionneur estime que les Bleus ont gagné le mérite de pouvoir faire souffler certains d'entre eux, la France étant déjà qualifiée pour les 8e de finale.
On va rester focalisé surtout sur le sport et cette victoire, on l'espère pour les Bleus, qui serait synonyme de première place, puisque je rappelle que l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour les 8e après 2 matchs. Et oui les amis, on va la voir la 3e, je vous le dis. Ça sent très bon. Allez, tout autre sujet, je reprends mon sérieux puisque je voudrais vous parler de cette information. On l'a appris ce soir, c'était une dépêche AFP aux alentours de 18-19h. Johan, on a vu ça ensemble, un homme de 24 ans qui a été interpellé aujourd'hui. Pourquoi ? Soupçonné d'avoir tué d'un coup de couteau dans le dos un homme de 74 ans. Ça s'est passé samedi à l'une des entrées d'un parc à la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Le suspect, et c'est là que c'est désolant, de nationalité roumaine, avait fait l'objet d'une OQTF. Il a été interpellé. Son OQTF, c'est rarissime, mais c'est arrivé, elle a été exécutée. Il est reparti en Roumanie, accompagné par les forces de l'ordre. Il sortait de prison en France. Alors, on n'a pas encore les informations pour lesquelles il était condamné en France. Mais donc, il a été expulsé. L'OQTF a été respecté, sauf qu'il est revenu en France quelques jours après et a poignardé mortellement ce pauvre homme. Pas une semaine ne se passe sans que l'on se trouve face à une problématique comme celle-ci. Ce qui est extraordinaire, donc, c'est qu'il a été expulsé, Tatiana, mais il est revenu. Votre regard sur cette information?
On a parlé tout à l'heure des passoires thermiques. Là, on peut parler justement du problème des passoires à nos frontières. C'est quand même aberrant. On a quand même débattu, là, pour le coup, pendant des longues semaines, après l'affaire Lola, justement, sur la question des OQTF, avec des mesures qui ont été prises.
Non, le pire, c'est que là, elle est respectée au QTF, et il revient.
Il est expulsé et on le laisse revenir. Il n'y a pas de contrôle. Donc, si je comprends bien, ils n'ont pas inscrit dans un fichier. Enfin, comment c'est possible qu'on en soit à ce degré-là de faille? Et c'est quand même terrible parce que j'ai l'impression que là, il y a une accumulation, justement, de failles, alors que c'est vraiment là où le bât blesse justement actuellement en matière de régalien et pour contrôler l'immigration. Donc ça, c'est une vraie question et c'est un vrai problème. Et c'est là où justement on fait le jeu de partis qui vont vouloir fermer totalement le pays. Donc il faut aussi savoir ce qu'on veut. Je pense que là, Emmanuel Macron est extrêmement fautif de ne pas prendre cette question plus au sérieux et de laisser à chaque fois les choses s'envenimer et s'aggraver, vraiment.
Je reprends les mots de Tatiana il y a un instant. Comment est-ce possible, Yohann Uzay?
Bon, d'abord, il faut dire que la personne en question est roumaine, n'est-ce pas?
Oui.
Bon, la Roumanie fait partie de l'Union européenne, mais aussi est exclue pour l'instant de l'espace Schengen. Hein, il faut bien quand même comprendre ça pour que les téléspectateurs qui nous regardent comprennent précisément de quoi on parle. C'est-à-dire que cette personne expulsée n'avait pas la possibilité de circuler librement dans l'espace Schengen, puisque même si la Roumanie est un pays membre de l'UE, elle n'intègre pas cet espace-là pour le moment. D'ailleurs, de plus en plus de personnes demandent que la Roumanie et la Bulgarie notamment intègrent l'espace Schengen. Ça fait polémique, on va beaucoup en parler dans les prochains mois à l'évidence. Néanmoins, sur ce point précis, effectivement, ça montre qu'il y a de multiples failles concernant ces OQTF. La première, on en parle souvent, c'est qu'on a des difficultés à reconduire, les laissez-passer consulaires, etc. Les recours qui sont multiples, extrêmement nombreux, concernant ceux qui sont visés par ces OQTF, ça leur permet de rester très longtemps sur le territoire français. Et là, on découvre une nouvelle faille à laquelle on est moins habitué, c'est de voir que quand ces OQTF sont appliqués, il y a la possibilité parfois de revenir sur le territoire français. Alors vraisemblablement, on le saura dans les prochaines heures, cette personne est revenue de manière illégale, mais néanmoins là c'est vrai qu'il n'y a pas de mer à traverser.
Encore faut-il qu'il y ait une interdiction de revenir sur le territoire qui soit formulée, et oui, ça on n'a pas l'information. J'ose espérer qu'il avait une interdiction.
C'est ce que je vous dis, c'est quand même plus probable. Généralement quand le juge prononce une obligation de quitter le territoire français, ça n'est pas pour vous permettre de revenir dans les semaines qui suivent. Attendons d'avoir la confirmation, mais bon, a priori, c'est ce qui se fait dans la plupart des cas. Donc là, on découvre cette nouvelle faille. Évidemment, on voit bien qu'on est confronté quand même à un problème qui est un problème d'ampleur, parce que c'est un cas qui n'est malheureusement pas
on en parle
anecdotique.
Là, on parle d'un pauvre homme qui a été assassiné sauvagement, qui paye finalement les conséquences de l'impuissance de l'État. C'est aussi simple que
c'est
ça.
Surtout très réveillé. Il faudra voir ce cas-là, je ne sais pas exactement, enfin, personne ne le sait d'ailleurs, exactement ce qui s'est passé, mais c'est très
révélateur. On est prudent pour l'instant, parce qu'on n'a pas toutes les infos, mais...
C'est très révélateur de la réalité des filières migratoires. Les gens n'arrivent pas à pied en traversant les Alpes ou en traversant les Pyrénées. Le gros point d'entrée en France...
La Roumanie, c'est plus facile. Hein. Bon.
Enfin, comment
il faut y aller en voiture, quoi, ce que je veux dire. On n'a pas à prendre un bateau clandestin. Vous voyez, ce que je veux dire, des embarcations, c'est pas la même chose.
Oui, mais ça ne changera toujours pas la réalité de ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le premier point d'entrée sur le territoire français, c'est Roissy. Et le problème, c'est que précisément, il y a assez peu de contrôles normalement. En théorie, il y a des passeports biométriques, machin, etc. Mais les contrôles sont exercés avec peu. On le sait, quand vous en parlez, ils vous le disent, finalement, la haute hiérarchie policière, ou etc. Ils le savent très bien. Et ça n'est pas le travail des policiers qui est en cause. Ce sont les fichiers, bien souvent, qui sont mal tenus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui abusent, qui vont prendre les papiers de quelqu'un d'autre, qui vont... Il y a mille et une manières de contourner ces choses-là. Et je vais vous dire, c'est tellement un problème d'ailleurs que même les fichiers d'inscription sur la nationalité qui sont à Tours, l'État ne veut surtout pas qu'on regarde ce qui s'y passe parce que l'administration ne veut pas qu'on se rende compte de la réalité des choses. Il y a une sénatrice, notamment la sénatrice UDI, centriste, Nathalie Goulet, qui travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc ne faisons pas semblant de le découvrir à chaque fois parce qu'encore une fois, ça n'est pas ni en voiture, ni à pied, ni sur un Zodiac que les gens arrivent principalement en France. Ce sont par les aéroports et en premier lieu Roissy. S'il y avait un peu plus de volonté politique, il y aurait un peu moins d'entrées illégales sur le territoire.
Allez, un ou deux derniers commentaires. Karim Abrik et Alexandre conclura.
Mais je vais faire très court. En fait, c'est une question de sécurité nationale. Donc ce qu'on va surveiller, c'est bien sûr ce projet de loi immigration et la question des OQTF, ça doit être vraiment
le 20e, à l'article 1. Le 20e projet de loi ou en combien d'années? Enfin, je ne sais plus à combien on en est.
Il y a un projet de loi par an.
Hein. J'avais noté.
La différence, c'est que les OQTF, on en parle quand même abondamment depuis quelques mois, donc ça doit être quand même la priorité.
Vous avez raison.
Il n'est pas du tout acquis qu'il avait une interdiction de territoire. Les deux choses sont décorrélées et les interdictions de territoire, ça fait partie.
Après, comment ça se fait que ça ne soit pas corrélé, justement, quand vous avez une OQTF? Puisque si vous avez une OQTF, c'est que vous n'êtes pas le bienvenu, d'une certaine manière.
Oui.
Donc pourquoi ce n'est pas conjugué à une.
C'est une question de droit, mais c'est pas.
Mais parce que la logique
logique peut être de redemander un visa.
Un visa.
Ensuite, on vous l'accorde ou on vous l'accorde
on
pas.
Vous l'accorde
Alexandre, concluez.
Donc, c'est de toute manière un processus juridique qui n'en
mais
finit
là,
pas
là, c'est
et, qui
très probable,
et qui permet aux gens.
Ils sortent de prison. Hein. Attention, hein, je
franchement,
une fois,
franchement
je répète,
j'en suis pas certain.
Avant d'être
Béatrice Brugière
sortait de prison.
J'en suis pas certain parce que Béatrice Brugière, qui est ma magistrat, expliquait justement que c'était décorrélé et qu'il y avait très peu d'interdictions de territoire qui étaient prononcées. Ensuite, ça pose quand même la question de l'espace Schengen parce qu'au mieux, il était interdit de territoire en France, mais pas nécessairement en Europe. Donc, il peut oui, revenir aussi, ouais. dans n'importe quel pays européen et repasser par la France. C'est pour ça que je pense quand même qu'à un moment donné, il va peut-être falloir se poser la question de rétablir des frontières dans cette espace, à l'extérieur de l'espace Schengen et éventuellement à l'intérieur. C'est vrai que c'est plus confortable pour nous de circuler, mais enfin, quand il y avait des frontières, on circulait quand même. C'était tout à fait possible. Vu le risque sécuritaire, c'est une question qu'il faut se poser, je crois. Et ensuite, effectivement, il faut faire preuve de volonté politique à Roissy ou à Orly, mais ça fait beaucoup de choses quand même.
L'exécutif, en fait, est pris à son propre piège, parce que souvenez-vous, on a eu ce long débat au moment de Lola, en disant en fait le problème, c'est que les OQTF, il faut.
Je rappelle que la meurtrière présumée de Lola était sous le coup d'une OQTF pour l'Algérie.
Il faut qu'il y ait les pays, en fait, dont ils sont nationaux, arrivent aussi à délivrer les laissez-passer consulaires et on se réfugie derrière cela. Et on se rend compte que même quand ça, c'est acquis, en fait, on les fait revenir, on les laisse revenir et il y a un vrai problème de passoire. Donc,
et un homme est mort d'un coup de couteau.
Là, Gérald Darmanin est quand même en grande difficulté parce qu'il est pris à défaut après l'Ocean Viking, après le QTF avec Lola et là aujourd'hui avec
Marie Cusson.
Bien sûr, il est pris là quand même à défaut sur beaucoup de dossiers.
Ça fait beaucoup.
Et là, il y a une vraie faille quand même de l'exécutif et de l'État français.
Il est en place, son portefeuille a été élargi, il a la confiance totale du chef de l'État. Comment j'ai même pas quoi dire.
Bon. Le principe de responsabilité politique en France,
c'est hallucinant. Hallucinant. Ce nouveau drame dans les Yvelines également, je voulais qu'on en parle quelques instants aussi. Un adolescent de 14 ans qui a été tué à coups de marteau au visage par un ado de 16 ans. Conséquence dramatique d'une nouvelle rixe entre bandes en banlieue parisienne. Célia Judas nous raconte ce qui s'est passé.
Au lendemain du drame à Coignères, l'émotion est toujours très vive pour les habitants et le maire de la ville.
Voilà, c'est une situation qui est dramatique, c'est l'horreur absolue. On est tous, ici à Coignères, choqués par cet événement.
L'adolescent de 14 ans a été tué lors d'une rixe dans la nuit de samedi à dimanche, à l'issue d'une soirée de combats d'arts martiaux mixtes organisée dans un petit gymnase. La victime, venue de Maurepas, ville voisine de 17 000 habitants, était présente avec son père à ce gala sportif, réunissant enfants et parents. Mais vers minuit, les deux bandes de jeunes s'affrontent en dehors de l'établissement, celle du quartier des Friches de Maurepas, contre celle rivale des marchands de Coignères. La victime reçoit alors des coups à la tête qui lui seront fatales, des coups qui pourraient avoir été assénés à l'aide d'un marteau. Il est 1h du matin lorsque la victime décède, malgré les tentatives de réanimation des secours, tandis qu'un deuxième jeune de Maurepas, âgé de 16 ans, est lui légèrement blessé à la tête. Rien ne faisait pourtant craindre un excès de violence particulier autour de cet événement sportif familial. Les deux villes, à la réputation plutôt paisible malgré quelques quartiers sensibles, sont situées en lisière de forêt à une quinzaine de kilomètres de Versailles. Hier après-midi, un jeune de 16 ans s'est présenté au commissariat d'Argenteuil dans le Val d'Oise, où il a déclaré être l'auteur du meurtre. Le suspect, originaire de Coignères, a été placé en garde à vue.
Alexandre Devecchio, il y a une violence aveugle, j'ai envie de dire, qui est en train de gangrener notre jeunesse. 14 ans, battu à mort par un ado de 16 ans à coups de marteau. De le dire, c'est... On ne réalise pas.
C'est une perte de tous les repères, en réalité. Et là, je parlerai également de désintégration, mais pas forcément en rapport avec la question de l'immigration. Il y a des gens qui sont totalement désinsérés, désintégrés de ce qui fait tout simplement société. Le docteur Maurice Berger, qui est pédopsychiatre spécialiste des violences, le répète assez. Il y a une forme de tribalisation de la société et le fait que ça touche la jeunesse est très inquiétant en réalité pour l'avenir. Que ce soit des jeunes gens aussi jeunes et aussi violents, on se dit qu'est-ce que ça va être.
La première chose que je me dis, c'est où sont les parents, pourquoi n'interviennent-ils pas?
Où est-ce que ça va nous mener? C'est pour ça que je parlais de gens désinsérés, désintégrés, avec des parents, effectivement, qui sont sans doute les premiers responsables, et donc des gens qui n'ont plus
où les parents sont défaillants et qui sont dans des réflexes tribaux, parce que on voit qu'ils fonctionnent en bande. Ils cherchent finalement une autorité, une forme de cocon familial ailleurs dans la rue. Et voilà, ça interroge. C'est un travail colossal qu'il va falloir faire pour pas perdre totalement une génération.
Je rappelle qu'en mars 2021, le gouvernement avait décrété la mobilisation générale contre les rixes entre jeunes après plusieurs bagarres mortelles. Ouais. Faut croire que ça n'a pas changé grand-chose.
Bah, on se souvient de Newry dans le 15e, hein, notamment.
Bien sûr.
Et je trouve que c'est effrayant, cette banalisation justement de l'ultra-violence chez les jeunes, de plus en plus jeunes.
Et quel jeune de 16 ans se promène avec un marteau?
Oui, et c'est vrai. Alors, déjà. Ça, pour le coup, c'est vrai qu'on peut vraiment aussi se poser la question. Mais cela dit, au-delà de ça, c'est vrai que quand on réfléchit en fait au terme de bande, bande, c'est normalement, à la base, c'est une bande d'amis. C'est fait pour se réunir, justement, pour être s'entourer, pour se... Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est devenu une machine de guerre où il y a comme ça une sorte d'ultra-virilité mise en avant dans ces bandes d'hommes, de jeunes hommes. C'est un territoire contre un autre. D'ailleurs, souvent, c'est des années. Hein, c'est les 2005 contre les 2005. Enfin, c'est... Il y a aujourd'hui une ultra-violence...
C'est des quartiers, apparemment. C'est deux quartiers qui se sont retrouvés dans un combat de MMA.
Mais tout à fait futile. Souvenez-vous, Yuri. Enfin, c'est des raisons, mais complètement dérisoires.
Toujours.
Et donc, c'est vrai que là, il faut interroger, au-delà de cette banalisation de l'ultra-violence, il faut interroger non seulement le rôle de l'école, non seulement, en effet, rôle de l'éducation des parents, parce que l'école ne peut pas pallier à la défaillance de l'éducation donnée, évidemment, par les parents. Pensons quand même, en effet, à toutes ces familles monoparentales. Donc, comment est-ce qu'on fait aussi pour arriver à les appuyer, les épauler? Et au-delà de ça, ça interroge aussi, évidemment, sur la prise en compte de celle du travail. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est dans le répressif? Il y a eu cette réforme du code pénal
des jeunes. Ça part de rien. Ça peut partir d'un regard, d'un mot.
Oui, c'est dérisoire. Donc, il y a cette ultra-violence qui est aussi sur les réseaux sociaux extrêmement banalisée, extrêmement présente. Donc, ça, c'est un aspect, cette prévention, comment on fait. Et sur le terrain aussi, comment est-ce qu'on prévient ça avec des éducateurs sociaux, avec des adultes, justement, avec des adultes au milieu de ces jeunes en déperdition. Mais au-delà de
ça, justement, c'est intéressant que vous disiez ça, parce que ce que je disais de mars 2021, ce plan qui était voulu par le gouvernement, c'était beaucoup de la prévention, du dialogue, des gens de terrain, des grands frères, comme on dit, des milliers. Mais regardez le résultat aujourd'hui.
Mais c'est protéiforme, parce qu'on est soit sur le répressif, soit sur le préventif. Et en fait, malheureusement,
il faut faire un peu des deux.
Et le répressif, pardon, dernière chose, quand les sanctions tombent 18 mois après, et c'est le cas justement de la réforme du code de la justice pénale, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Ou quand il n'y en a pas, d'ailleurs, quand il n'y a pas.
On poursuit le débat, je voudrais juste qu'on entende ce qu'en disait aujourd'hui Jordan Bardella, le patron du RN.
Eh bien, il faut faire un tour de vis en matière pénale. Parce que bien souvent, les policiers nous le disent d'ailleurs, hein, quand ils démantèlent des bandes, quand ils démantèlent des trafics, ils interpellent des individus et ces individus sont remis en liberté un jour, deux jours, peut-être parfois deux heures après. Donc il faut faire un tour de vis en matière pénale, il faut rétablir des peines planchers, il faut abaisser la majorité pénale bien en dessous évidemment de ce qu'elle est aujourd'hui, il faut mettre fin aux remises automatiques de peine et puis il faut construire des places de prison.
Yoann Uzaï.
Non, le tour de vis pénal, effectivement... Pourquoi pas? Enfin, on voit bien manifestement que la loi n'est pas tout à fait adaptée à la violence que connaît notre société. La loi doit s'adapter aussi à l'évolution de la société, manifestement.
Avant de faire un tour de vis pénale, peut-être essayer de comprendre ce que fait un gamin de 16 ans avec un marteau pour fracasser le visage d'un autre, ce serait pas mal déjà.
J'allais vous dire tour de vis pénale, voilà. Mais c'est une solution un peu de facilité, j'allais dire. Je m'explique. C'est-à-dire que oui, effectivement, il faut que le droit s'adapte à l'évolution de la société. Manifestement, ça n'a pas suffisamment été le cas ces dernières années. Mais ça ne réglera pas tout le problème. C'est-à-dire que le tour de vis pénal, là, en l'occurrence, s'il a tué ce gamin de 14 ans, voilà, le tour de vis pénal, malheureusement, ça n'aurait pas empêché, voyez-vous, ce qui s'est passé. Au moins, on aurait la certitude qu'il ne recommencera pas s'il passe sa vie en prison. C'est déjà quelque chose, vous allez me dire. Néanmoins, le but principal, me semble-t-il, c'est que ce genre de fait n'arrive pas ou arrive beaucoup moins fréquemment. La plupart des spécialistes s'accordent quand même à dire que l'ultra-violence que connaît notre société actuellement,
notamment chez
les jeunes, est quand même manifestement en lien avec Internet, les réseaux sociaux et avec l'évolution des jeux vidéo.
Ça, ce sont des inhibitions, les spécialistes, une distance
les spécialistes
par rapport
à... qui le disent. Or, on sait quand même qu'une partie des parents sont déconnectés de l'ensemble de ce monde-là, les réseaux sociaux, les jeux vidéo. Voilà, si vous avez plus de 30 ans, manifestement, c'est quand même moins votre domaine de compétence que quand vous avez 15 ou 20 ans. Enfin, de manière générale, j'entends. Bon, donc il me semble quand même, on dit l'éducation, les parents, bien sûr, les parents ont un rôle à jouer, mais il me semble que dans ce contexte-là, l'école a un rôle à jouer qui est appelée à être de plus en plus grand, notamment. Notamment.
Pas tout,
non, j'entends
bien l'instruction, c'est pas l'éducation. Non, pardon. Enfin, je suis désolé, mais l'éducation, c'est les parents.
Mais dans l'appréhension de tous ces problèmes-là et dans la détection aussi, peut-être, parce qu'un professeur qui passe 8 heures par jour avec un élève est peut-être plus à même de détecter ce genre de.
Vous voyez ce que subissent les profs en ce moment.
Je n'en sais rien, mais.
On a eu ce débat la semaine dernière. Tout ce qu'on demande aujourd'hui aux enseignants.
Mais j'entends bien, je dis qu'il faut s'adapter.
Quelle est la tenue religieuse ou pas, on leur demande d'éduquer les enfants, on leur demande de prévenir.
J'entends ce que vous dites.
C'est impossible, quoi, pardon.
Je vous entends, Jean-Sébastien et Karim Abric. Juste un dernier extrait d'Alain Bauer, encore une fois ce matin chez Laurence Ferrari, sur cette hyper-violence des plus jeunes. Écoutez-le.
Les tentatives d'homicide sont à un niveau extraordinairement élevé, puisqu'au cours des 3 dernières années, confinement compris, on est au plus haut niveau depuis 50 ans. Donc il se produit un phénomène de violence radicalisé, extrémisé, jusqu'à la mort, qui apparaît comme un phénomène relativement normal, avec des règlements de compte essentiellement dus au trafic de stupéfiants, des règlements de compte entre bandes qui vont jusqu'à la mort, et puis des assassinats et des tortures entre adolescents, jeunes, pour toute une série de raisons. Donc ce que j'appelais la trollisation, c'est-à-dire le transfert du réseau social vers la mort physique, est un élément qui est en train de se produire.
Karim Abric.
Oui, ben il en a parlé, vous avez écouté.
On a une partie de la jeunesse qui vit, l'impression, c'est qu'elle est dans un autre monde, vraiment.
Oui, mais c'est moi ce qui me fascine et ce qui me fait complètement flipper, comme on dit, c'est ce degré de violence. C'est vraiment cette radicalisation de la violence, ces gestes d'une barbarie, d'une sauvagerie. C'est pas arrivé, là, c'est la conséquence, bon, une espèce d'accident qui a dégénéré.
Oh non.
Vous voyez la brutalité, l'intensité. Donc, effectivement, et c'est un phénomène aussi qu'on observe, notamment au Canada, récemment. On voit chez les jeunes l'augmentation de la violence dans les bandes criminalisées, donc par armes à feu, des jeunes qui sont armés avec des pistolets, des revolvers, des choses comme ça. Donc, on voit une augmentation depuis les dernières années, les derniers mois même particulièrement. Donc, il y a cette valorisation de la violence, notamment sur les réseaux sociaux, notamment par le biais de la musique, de certains clips, réseaux sociaux, etc. Donc, quand on voit comment on peut peut-être prévenir, est-ce qu'on peut prévenir? On parlait de l'importance de l'école, évidemment pas nécessairement sur les professeurs, mais est-ce qu'il pourrait avoir une espèce de campagne de sensibilisation où des professionnels, des policiers iraient littéralement? Parce qu'il y a de la violence qui se passe aussi à l'intérieur des murs. Il y a toujours eu des batailles, hein, des rixes, il y en a toujours eu.
Oui, non, mais la guerre des bandes, des gangs rivaux, ça a toujours existé. Mais et ça, on ne découvre pas quelque chose.
C'est ça.
C'est l'augmentation de la violence, la désinhibition et le rajeunissement.
L'omerta aussi, pardon, au sein des
peut-être
écoles,
aussi,
malheureusement,
ouais.
Le nombre de jeunes qui n'osent pas parler, n'osent pas dénoncer des violences entre jeunes ou même des violences intrafamiliales, etc., quand ils ont connaissance de cela. Ça aussi, c'est une vraie question. Il y a une vraie omerta.
Parce qu'on s'identifie à la bande comme une famille, qu'il y a les codes de l'entre-soi également, des codes qui sont souvent des codes d'ultra-violence.
Parce que c'est une demande,
Jean-Sébastien, oui.
Le grand paradoxe, c'est que c'est une demande de cadre et d'autorité. Quand vous êtes dans une bande, vous êtes dans une demande de cadre. Et nous sommes une société qui considère le cadre, l'autorité, la sanction de l'enseignant, de n'importe quel finalement structure et une atteinte aux droits de l'homme. Donc c'est quand même fabuleux que ça fasse 50 ans qu'on s'affole du conservatisme. Oh, nous serions trop conservateurs. Mais enfin, regardez la société que nous avons créée. Nous sommes en pleine sud-américanisation. Parce que à quoi ça va aboutir? Ça va aboutir à la distanciation sociale que l'argent permettra d'acheter. Il y aura des gens qui très clairement vont se mettre à l'abri, qui diront, bah, écoutez, débrouillez-vous. Vous avez
pas déjà un peu le cas, Jean-Sébastien?
Exactement. Oui, mais enfin, on est très très loin de ce qu'on peut connaître, par exemple, à Brasilia.
Il n'y a pas des barbelés et des...
Brasilia ou à Rio de Janeiro.
Des résidences de sécurité, je suis d'accord.
Ce sont des sociétés qui n'ont plus aucun lien. Là, il y a quand même toujours une continuité, ne serait-ce que territoriale.
Peut-être en Afrique du Sud.
Il y avait des villes où même les réseaux de transport en commun s'organisaient de manière à ce que justement vous puissiez passer assez difficilement d'un quartier chic à un autre, quand il n'y a pas carrément des grands murs. Hein, parce que ça, c'est la réalité et c'est la société vers laquelle nous allons. Et dernier point, le nihilisme. Mais on en parle souvent. Nous sommes une société qui est devenue littéralement punk. Mais pas le côté punk, no future, avec la reine d'Angleterre en couverture d'un album des Sex Pistols. Non, mais vraiment le côté no future. Nous ne croyons plus à notre futur. Nous sommes devenus incapables de donner du sens à notre société comme à la vie. Et quand vous n'êtes pas capable de donner du sens à la vie, eh ben la vie n'a pas de sens. Et quand elle n'a pas de sens, elle n'a pas de valeur. Et c'est exactement ce qui nous arrive.
Les images violentes, l'exposition aux réseaux sociaux, à l'Internet, ça suffit à expliquer tout ce qu'on est
en train de constater.
Non, moi je ne crois pas du tout. Je crois que effectivement, Jean-Sébastien, Ferjou a raison de poser la question du sens, de l'autorité, de la famille, que c'est beaucoup plus profond que les réseaux sociaux et Internet.
Les vidéos, il n'y a pas le même genre de
c'est hein. un peu une excuse. Et d'ailleurs, le président de la République, quand on lui parle de violence, répond sur ce type de sujet.
Lui, c'est les réseaux sociaux, l'explication.
Périphérique, oui. Comme si, parce que lui a subi une violence verbale sur les réseaux sociaux, donc le pauvre se sent victime. On a quasiment l'impression. Il ferait bien de se pencher sur les vraies victimes dans la société.
Pas que lui qui dit ça,
c'est un travail moral.
La même chose. C'est pas le président de la République qui sort ça de son chapeau. Enfin, non, pardon.
Les réseaux sociaux, c'est pas que ça, c'est qu'il y en a qui vont filmer.
Il y a un vrai sujet, Alexandre, sur les réseaux.
Non, mais moi, je crois que les actes de violence existaient.
C'est vrai ce que dit Karim.
C'est vrai, mais ils existaient déjà. Et or, les réseaux sociaux permettent, c'est un grand mot de le dire, mais de mettre le doigt sur une violence qui, pardon, dans certains quartiers existait déjà depuis des années.
Seulement,
il y avait un déni profond.
Est-ce que vous croyez sérieusement qu'à Taipei, la capitale de Taïwan, les gens jouent pas aux jeux vidéo? Vous croyez qu'ils sont pas sur des réseaux sociaux? Vous croyez que TikTok, c'est pas...
Mais après, vous avez des terreaux peut-être plus ou moins fertiles qui sont alimentés par...
Exactement, il faut décorréler deux choses. Il y a une étude qui est sortie justement récemment, qui a été
dans certains cas,
très transversale, qui montre que précisément, ça peut être l'un des moteurs, mais uniquement l'un des moteurs, notamment par rapport à la frustration qu'on a, parce que tout est construit sur des temps d'attention extrêmement courts. Mais ça n'est que l'un des moteurs, très clairement.
Alors quel est le moteur principal?
Mais c'est la société elle-même, c'est ce que je vous disais, des gens qui jouent aux jeux vidéo, il y en a partout en Asie, et les sociétés asiatiques ne connaissent pas la même violence. Ils connaissent
donc
d'autres formes de violence. Mais c'est oui, parce que le fait que nous ne soyons plus capables de donner du sens à la vie, les réseaux sociaux, c'est comme tout, c'est comme la télévision, c'est comme une voiture, ça n'est jamais qu'un outil que vous mettez au service d'une cause ou d'une autre.
Bon. En dernier mot, Tatiana,
oui, c'est vrai que c'est le reflet de notre société. Et par ailleurs, il faut aussi que nous, adultes, montrions l'exemple, parce qu'on est une société aussi ultra-violente. Pardon, mais au quotidien, vous voyez aussi des automobilistes qui se tapent dessus parce que l'un a insulté l'autre.
C'est le rapport à la frustration, en fait.
Mais montrons-nous aussi, adultes et parents, l'exemple à nos enfants. Mais pardon, mais si aussi. Et deuxième chose, et je pense que ça joue aussi dans cet exemple de bandes qui sont des bandes souvent dans des quartiers difficiles, c'est aussi un problème de mixité. C'est-à-dire qu'il y a aussi
Sur les parents, vous avez raison. Vous savez à quoi vous me faites penser à l'étude de l'éducation nationale qui montre que les menaces et les attaques vers les représentants parents, de l'éducation nationale sont principalement à 48%
des parents. Bien sûr,
ce sont les parents.
Quand on voit des gens qui s'en prennent aux policiers, aux pompiers ou à des professeurs, il y a un moment donné aussi, je dis pas du tout que c'est ce qui explique cela, du tout, mais je dis que c'est, voilà, on doit tous aussi se questionner justement sur le pourquoi du comment de cette ultra-violence.
Les gens qui sont nés en 1968, ils ont quand même plus de 50 ans aujourd'hui, ils ont le temps d'avoir des enfants, pas d'être grands-parents.
Il y a aussi, Maurice Berger le dit, c'est souvent dans des familles extrêmement dysfonctionnelles où il y a de la violence au sein des familles, donc je pense que c'est pas tout à fait la même chose, les automobilistes qui s'engueulent comme ça a toujours existé, et les familles qui montrent l'exemple, le mauvais exemple, ça va beaucoup plus loin que
là où peut-être certains se faisaient, pardon de le dire comme ça, un bras d'honneur il y a quelques années. Aujourd'hui, on sort de la voiture.
Il y a un tabou absolu qui est celui des familles monoparentales. Barack Obama s'était permis de le dire parce que lui, étant métis, pouvait le dire. Dans la violence, dans la pauvreté, dans la communauté noire, c'est beaucoup parce que les pères sont absents. Donc lui, s'est permis de le dire parce qu'il était justement métis, mais évidemment, ça, les familles monoparentales, personne ne peut en parler parce qu'on considère là encore que la liberté de l'individu doit prévaloir sur toute autre considération.
Il va être l'heure de faire un petit point sur l'actualité dans un instant. Une idée de cadeau de Noël. Je ne sais pas si vous allez la suivre.
Un jeu vidéo, peut-être.
Non, c'est un jeu de société Antifa. Il a beaucoup fait réagir ce week-end. On va tout vous expliquer. Mais d'abord, donc 23h, quasiment 28. Rebonsoir Isabelle Piboulot pour l'actualité.
Bonsoir à tous. Caroline Cayeux a démissionné de son poste de ministre déléguée aux collectivités territoriales. Une démission en raison d'un différend avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sa déclaration de patrimoine étant jugée et sous-évaluée, Caroline Cayeux sera remplacée par sa collègue chargée de la ruralité, Dominique Faure. Une prise de poste chahutée pour Jean Castex pour son premier jour à la tête de la RATP. L'ancien Premier ministre a été accueilli par près de 400 salariés grévistes au siège de l'entreprise. Tous demandent à être reçus par le nouveau PDG pour obtenir une revalorisation salariale de 300 euros, alors qu'un mouvement de grève agite les ateliers de maintenance depuis plusieurs semaines. Et puis le tribunal correctionnel de Niort a tranché. Des peines d'emprisonnement avec sursis de 2 à 3 mois ont été retenues pour les 5 militants anti-bassines. Des peines assorties d'une interdiction de séjour de 3 ans dans les Deux-Sèvres. Ils avaient été interpellés lors d'une manifestation contre le chantier d'une retenue d'eau agricole à Sainte-Soline, théâtre de violents affrontements fin octobre.
Je vous parlais de ce jeu de société, peut-être le plus incroyable des derniers mois, en tout cas surtout improbable. Antifa, ça s'appelle, voici la boîte de jeu. Vous pouviez le trouver jusqu'à aujourd'hui un petit peu partout, hein, sur, alors je vais citer des plateformes, Amazon, la Fnac, surtout la Fnac a été épinglée par un syndicat policier, désormais retiré donc de plusieurs plateformes de vente de grandes enseignes nationales. Pour mieux comprendre ce qu'il y a dans ce jeu et pourquoi il a beaucoup fait réagir, le sujet de Mathieu Rio.
Dès le début de la partie, des événements sont tirés au sort. Parmi eux, un groupe raciste organise une manifestation anti-réfugiés ou encore un polémiste islamophobe fait une séance de dédicace. Manifestation, blocage, action offensive. Dans ce jeu de rôle, les militants vont alors s'organiser, gérer des imprévus, comme une descente de fascistes, l'élection d'un maire d'extrême droite ou encore se préparer au combat.
C'est plutôt l'école du crime. C'est inviter, c'est inciter des gens, des jeunes de tout âge à devenir des ultra-gauchistes patentés pour s'en prendre aux forces de l'ordre. Et on n'avait vraiment pas besoin de ce genre de jeu, c'est affligeant.
Le syndicat des commissaires reproche notamment au jeu de promouvoir la violence dans les manifestations.
Distribuer ce genre de jeu à l'attention de tout le monde est extrêmement dangereux et on peut penser qu'au moins il y a une complicité morale en ce sens.
Pendant plus de 2 ans, Antifa le jeu a été utilisé comme outil de formation par des militants antifascistes avant d'être édité en septembre 2021. Face à la polémique, le jeu a été retiré de la vente sur le site internet de la Fnac. Sur Twitter, l'entreprise a aussi annoncé qu'elle ferait le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible en boutique.
Alors, on va en discuter, mais je voudrais vous lire d'abord les réactions, notamment de Thomas Porte, député LFI de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Top cadeau de Noël, allez-y. Leïla Chaibi, qui, elle, est députée européenne, la France insoumise. L'extrême droite aboie, la FNAC obéit.
Qui veut réagir?
Moi, je vais vous dire, je trouve ça complètement con, ce retrait de la vente, mais alors vraiment très très con, parce que c'est exactement alimenter la logique.
Le jeu, lui, il est intelligent.
C'est alimenter la logique de guerre civile, c'est-à-dire qu'on va être dans une société où on devra en permanence compter nos forces, c'est-à-dire qui sera le plus fort pour boycotter Bidule ou machin ou un tel. Donc ce jeu-là, déjà, ça lui donne une publicité extraordinaire qu'il n'aurait pas eu.
Oui, mais bon, enfin, je veux dire, c'est un peu, c'est limite de l'incitation à la violence.
Je suis désolé, moi, en tant que libéral, je considère que oui, mais vous croyez que les antifas, parce que ils n'auront pas acheté ce jeu-là à la FNAC, vous croyez déjà qu'ils vont à la FNAC, enfin bref, vous voyez bien ça. Non, mais ça...
Là, c'est bas, mais enfin bon.
Non, mais j'en sais rien, s'ils sont cohérents avec eux-mêmes et qu'ils sont vraiment anticapitalistes,
je ne sais pas quoi, un
bar communautaire qui ne fait pas de profit, mais enfin bon, bref, peu importe. Mais si on en vient à devoir en permanence tout interdire, tout réglementer, mais vers quelle société allons-nous? Moi, j'ai pas envie de vivre dans une société où je constate...
Donc vous avez envie de
moi,
vivre dans une société où vous pouvez acheter un
j'ai
jeu...
J'ai pas envie qu'il y ait des gens qui soient plus nombreux que moi et qui m'interdisent de faire ce que je veux chez moi, voilà, qu'on me laisse tranquille et que les autres aillent se faire foutre.
Non, mais à l'évidence...
Non, mais il est tard, mais mesurez vos propos quand même, cher ami, parce que je suis garant de la bonne parole sur ce plateau tout de même. Allez-y, Yoann.
À l'évidence, la question de l'interdiction ne se pose pas. Enfin, vous avez la liberté, évidemment, d'éditer et de commercialiser et d'acheter ce jeu, même si, à l'évidence, quelque part, moi, j'y vois quand même une forme d'incitation à la violence. Hein, pardon, mais...
Un peu quand même. Hein.
Néanmoins, ce qui m'intéresse dans ce que vous avez dit, là, ce sont les tweets de la France insoumise, principalement, hein. Parce qu'on sait bien que les Antifa et le Black Bloc s'invitent dans toutes les manifestations. Je peux vous dire, j'ai couvert la dernière manifestation, la marche du pouvoir d'achat de Jean-Luc Mélenchon. Bon, les Antifa et le Black Bloc étaient là. Ils sont venus pour casser des vitrines, pour caillasser les CRS. Je les ai vus. Bon, à ce moment-là, qu'a dit la France insoumise? Bon, elle dit, attendez, nous, on n'y peut rien. Ils sont pas invités, évidemment. On condamne à moitié, etc. Là, néanmoins, on voit quand même clairement que la France insoumise soutient ce mouvement mouvement extrêmement violent qui est là pour casser du flic, pardon.
Parce que c'est un mouvement qui se normalise, oui, mais, en tout cas, oui, qui est en phase de normalisation.
Oui, mais là, par au moins, sans se cacher, désormais, la France insoumise apporte clairement son soutien aux Antifa, qui sont un groupe extrêmement violent, voilà, qui s'en prennent aux forces de l'ordre, qui sont là pour semer le chaos dans toutes les manifestations et pas seulement. Donc voilà, je trouve que politiquement, ça veut dire quelque chose.
Personne à gauche ne dénonce. Tatiana Rabarzak, qu'en dites-vous quand vous voyez des élus dire que la police est raciste et tue, en même temps, il faut peut-être pas s'étonner.
En même temps, ils le disent même en dehors du jeu.
Je savais pas que vous appeliez Tatiana, mais non. C'est une bonne nouvelle. Enchanté. Donc Jean-Sébastien.
Tout à fait. Pardon. Je vais prendre la grosse voix.
C'est vrai qu'il a une grosse voix.
Bon, alors moi d'abord, je découvre là les images de ce jeu. J'en ai entendu parler, mais c'est vrai.
Vous voulez que je vous lise une ou deux cartes, Tatiana?
Je l'ai regardé là.
J'en ai une ou deux. Je me permets?
Oui, bien sûr.
Alors, jeu Antifa, donc meeting de la présidente du premier parti nationaliste, puisque les gens sont imaginés, hein, mais on peut très vite comprendre de qui on parle. Héritière du parti fondé par son père, elle tente d'offrir un visage plus présentable à l'extrême droite, mais fait toujours des étrangers les boucs émissaires de tous les maux de la société. Juste une deuxième carte que je vous lis. Une salle de prière musulmane a été dégradée. Les fidèles ont découvert au matin des livres de prière déchirés, une tête de porc fixée sur la porte. Les inscriptions racistes laissées sur les murs ne laissent aucun doute sur la motivation islamophobe de leurs auteurs. Voilà le type de cas. J'en ai 3-4 comme ça, mais bon, je vais pas...
Les propos sur Marine Le Pen, on a tous compris.
Oui,
c'est une opinion politique. Ça n'est pas en soi condamnable. Ça n'est pas quelque chose de choquant, à mon sens.
Et surtout, il faut quand même rappeler que derrière, il y a quand même La Horde, qui est un collectif très engagé, que la maison d'édition le reconnaît, le revendique, est une maison d'édition, de gauche, qui publie normalement des livres, et c'est la première fois d'ailleurs qu'elle publie un jeu, et qui explique, alors là pour le coup, c'est pour ça que je voulais ces précisions, parce que je n'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Donc en fait, cette maison d'édition explique qu'elle a une vocation pédagogique, ce sont des cartes qui sont censées expliquer justement comment faire pour lutter contre des partis extrême droite. Ça me semble aller un peu loin, parce que là je voyais par exemple dans les images que vous avez montrées, comment on fait un camion, des sonos, des vêtements noirs, des fumigènes. Bon, je trouve que ça va peut-être un peu loin dans la graduation.
Il y a même une incitation à produire des cocktails Molotov, ou l'équivalent, on l'appelle pas.
Là, ça pose quand même un petit souci, et je ne sais pas s'il est interdit
là,
à un certain âge.
On va pas
âge.
Définir ce que c'est.
Je ne sais pas s'il est interdit pour un certain, je sais pas à partir de quel âge c'est ce jeu, mais je trouve que c'est un peu dangereux.
Je ne sais pas s'il y a une restriction d'âge d'ailleurs, c'est intéressant. Mais
d'un jeune, on parlait tout à l'heure de violence.
J'ai pas lu juste le communiqué de la FNAC, pardon Jean-Sébastien. Juste le communiqué de la FNAC. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons le nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. C'est vrai.
Après, je remarque aussi la vitesse à laquelle ça a été retiré par que certains se sont offusqués rapidement sur les réseaux sociaux. Je ne parle pas des syndicats de police qui ont des raisons et des bonnes raisons parce qu'ils se font malheureusement face trop souvent dans les manifs justement à la violence, à l'ultra-violence de ces antifas. Mais cela dit, je constate quand même qu'évidemment, certains se sont empressés de s'emparer de cette question-là et d'en faire une sorte d'étendard. Donc,
vous parliez de la police.
Très politisé.
Une dernière carte que je n'ai pas lue. Un jeune du quartier des Mimosas tué par la police. La colère et le deuil ont enflammé ce quartier populaire dans lequel la police, bac en tête, aime à venir jouer les cow-boys. Un comité de soutien à la famille s'est constitué. Il a besoin d'aide pour que justice soit rendue. Voilà l'un des scénarios dans le jeu.
Alors moi,
un dernier mot.
Je suis comme Jean-Sébastien Ferjou, je ne suis pas nécessairement pour l'interdiction. Après, il appartenait à la FNAC de décider de ne plus le commercialiser. Elle a sans doute jugé que c'était
pas... Qu'on peut le trouver chez Gilbert Jeune.
Voilà. La FNAC a sans doute jugé que c'était pas bon. Ça lui faisait de la mauvaise publicité. Après, c'est intéressant, je trouve, ce jeu. C'est... Politiquement, Yohann Uzaï l'a très bien dit, là, on voit que la France insoumise a avance à visage découvert. Et ensuite, sociologiquement, ça montre l'imaginaire, quand même, le monde parallèle dans lequel gravite cette mouvance. On a l'impression que la France est un pays d'extrême droite, au bord d'avoir un régime nazi, raciste, sexiste, qui martyrise les femmes, qui frappe les gens d'origine immigrée, où la police agit...
Un jeu qui explique comme, que les flics comme sont des fachos. Voilà, et le problème, c'est que si vous voulez le retirer, vous êtes d'extrême droite.
Donc ça montre l'univers parallèle dans lequel il navigue, mais malheureusement un univers parallèle qui fait beaucoup de, enfin, auquel beaucoup de personnes adhèrent. Dans les banlieues, il y a déjà une forme de violence, mais ça légitime cette violence-là. Donc voilà, ça nous renseigne. Donc c'est très important. C'est important qu'on en parle. D'ailleurs, on peut imaginer s'il y avait un jeu qui s'appelait anti-gauchiste où on expliquait comment taper les gauchistes. Je pense que les réactions seraient quand même encore beaucoup plus indignées que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est bien qu'on en parle. Après, je suis contre les interdictions parce que je pense que les gens, il faut faire preuve d'esprit critique.
Jean-Sébastien nous le disait quand on jouait le sujet, c'est vrai qu'il y a un effet pervers à parler de ça, c'est que l'attaque contre ce jeu crée un effet de publicité considérable et qu'aujourd'hui ce jeu il est juste en rupture de stock.
Qui est une vraie réussite capitaliste.
C'est une vraie... Oui, c'est vrai. Dernier mot. On va passer à la dernière image dans quelques secondes. Dernier mot, Karima, là-dessus.
Oui, c'est ça, parce que vous alliez, je pense, c'est sur le site, puis il y avait déjà une centaine, je pense, de librairies indépendantes qui, de toute façon, décidaient de
le vendre. Oui, vous pouvez l'acheter en commerce.
C'est une décision.
Amaury Bucaud, c'est de se les procurer aujourd'hui. Ouais, il l'a payé 25 euros.
Bon, ben voilà. Donc, c'est une décision après commerciale de la
FNAC. Il est en train de jouer avec ses amis.
Est-ce qu'elle décide de retirer? À ce moment-là, est-ce qu'on est pour ou contre la fameuse liberté d'expression? Si la FNAC décide de dire, bon, ça ne correspond pas à mes valeurs en tant qu'entreprise, c'est une chose. Mais bon, moi non plus, je ne suis pas pour cette interdiction. Cela dit, je trouve ça complètement délirant, cette complaisance à l'égard de la violence de l'extrême gauche.
Ah oui, ça oui.
Il y a cette complaisance, il y a cette
fierté.
Bienvenue
en France, Karima Brik.
Oh non, mais ça, c'est généralisé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Exactement. Donc, je voyais justement, je me suis amusée, j'allais voir un peu sur Twitter.
Twitter.
Ouais. des politiques, de certaines personnes, des médias commencent à prendre des photos avec le jeu. Ah, très cool, là, je me suis procuré le jeu, je vais le mettre
sur
le
site. David Guiraud de la France Insoumise propose un live Twitch pour jouer.
Non, mais c'est tellement ridicule parce que quand même vous cautionnez quand même des groupes qui sont réputés pour être violents. Donc quand même, je pense qu'on peut quand même se questionner là-dessus et surtout dénoncer cette complaisance.
C'est l'heure de notre dernière image avant de se dire au revoir. D'ailleurs, je vais rester avec vous, Karima, pour la dernière image parce que bon, Karima, c'est vrai qu'on parle souvent, régulièrement des refus d'obtempérer dans notre pays. C'est un sujet très sérieux, c'est un fléau pour la police. Au Canada, chez vous? Il y a des refus d'obtempérer également. Vous connaissez le même type de problème, mais avec une population un peu différente. On est dans la ville de Taber.
Ouais, ben
vous
connaissez Taber?
C'est dans le sud de l'Alberta. C'est jeudi dernier, vous avez un troupeau d'autruches qui a fui depuis une ferme voisine qui a semé la... Regarde, il l'attrape au cou. Il n'arrive pas à la saisir. Et oui, dans les rues de la ville, mobilisant un nombre conséquent de policiers pour tenter de les capturer. Le propriétaire des autruches a même été contraint de se joindre aux forces de l'ordre pour essayer de les rattraper.
Ce genre de refus d'obtempérer.
Et ben, ça c'est un délit de fuite, je suis désolé. Parce qu'en plus, l'autruche, vous savez que la vitesse de pointe d'une autruche, c'est phénoménal.
Et le policier est pas gentil, il la prendre par le cou comme ça.
La vitesse de pointe d'une autruche, c'est quand même 70 km/h et en moyenne, elle court à 40.
Limite comme intervention.
Voilà, refus d'obtempérer au pays de Karima Brik. Voilà comment ça se passe. Voilà, c'est des nouvelles de chez vous. Bon, les autruches vont bien, elles étaient une vingtaine, elles se sont échappées de ces infirmiers. On déborde, me dit-on dans l'oreille. Donc je vous remercie évidemment les amis. Je remercie Martin Guillard et Benjamin Cuneo qui ont préparé cette émission. Est-ce qu'on peut avoir un gros plan sur Tatiana Renard-Barzac, s'il vous plaît? Joyeux anniversaire, Tatiana. C'est dans 20 minutes.
On a
25 ans, Tatiana, c'est vous les portez magnifiquement. Écoutez, merci. Félicitations. Je vous dis à la semaine prochaine avec une année de plus. Et à demain pour les autres. Très belle nuit. À suivre l'heure des livres, l'édition de la nuit, toutes nos émissions et ce joyeux anniversaire à Tatiana également à retrouver sur cnews.fr. Bonne nuit.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.